Wild, l'émission. Présentée par Benjamin Warlop et Fleur Thierry.
Ça va, Joseph ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. Voilà, j'ai envie de te faire des vannes, mais je sais pas quoi.
Bah, attends d'avoir de la répartie, et puis vas-y.
Okay. Non mais, merci Flore, c'est gentil. Voilà, et Flore qui me défend même pas, ça papouille, d'accord, mais tu
Bah, attends,
moi,
déjà,
j'ai pas été annoncé.
Elle te câline déjà. Moi j'ai fait ça exprès pour que tu fasses câliner par Flore, tu devrais me remercier.
C'est vrai.
Merci Joseph. Salut Flore, ça va ?
Bah oui, ça va.
Bien, ouais, maintenant tu peux me défendre.
Oui, c'est pas bien, Joseph, tu seras puni sévèrement.
J'espère bien.
Mais ça lui plaît ça en plus.
Bah oui, il va peut-être continuer.
Je vais te priver de Monkey Spanker.
On va vous présenter le Monkey Spectre, les amis, ce soir. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir.
Tu n'as pas changé de prénom ?
Toujours pas, non.
D'accord.
Non.
Ça va ?
Ouais.
Bien.
C'est pas comme le Chatus, le Monkey Spanker, je ne change pas de prénom.
Cul comme Quentin, tous les mois, tu viens nous présenter des sextoys Lelo, mais pas que, il y a d'autres choses, notamment le Chatus et le Monkey Spanker. On va savoir enfin, à la fin de cette émission, ce que c'est ça.
Ah oui.
Voilà.
Pourtant, bah, c'est probablement le plus facile.
Déjà, ça se gonfle, il y a une valve,
simple.
Ça se gonfle.
Ou pas.
Mais c'est bah, pour si. Les êtres humains ou c'est...
Et ça, c'est la surprise. C'est la
ça
surprise.
Ressemble à un truc comme mon chien a pour...
ça marche aussi.
Un sextoy pour chien.
Mais je sais pas si c'est un sextoy, justement. Je dirais plutôt une laisse pour chien.
Il y a, une sorte de collier dans...
Ouais. Oui, c'est un choker.
Ouais, d'accord. Qui vibre ?
Même pas.
C'est picobong, donc c'est mignon. Ça fait
voilà,
d'accord, on va savoir ça, un petit teasing. On saura ça en deuxième partie de cette émission. Flore, est-ce que tu peux présenter le thème de cette émission ce soir et nos invités autour de la table, s'il te plaît ?
Bon, on va parler de sexe et de money et d'argent. On va aussi parler un peu de prostitution. On accueille ce soir Anaïs et Thierry Schaffhauser du STRAS. Le STRAS, c'est le syndicat pour les travailleurs sexuels. Et ils étaient, on entendait beaucoup parler d'eux récemment parce que vous avez déposé avec Médecins du Monde et neuf autres, vous étiez neuf associations en tout, une QPC. Une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si la pénalisation du client, ça allait ou pas à l'encontre de nos libertés les plus fondamentales. Et on a eu le résultat il y a quelques jours qui disait que la pénalisation du client, elle reste en vigueur et qu'on ne va pas toucher à cette loi. Mais pourtant, il y a débat, il y a match et on peut peut-être en refaire une partie ce soir, en tout cas.
Qui veut rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur la pénalisation du client ? C'est une loi de 2016, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas ce qu'il faut... en gros, en théorie, ça va jusqu'à 3 750 € d'amende. Et puis, alors, la peine de prison, c'est... Non, il n'y a pas de peine de prison. Non. C'est même en récidive. Récidive, il n'y a pas...
Non.
En fait, c'est 2 500 € d'amende et 3 750, quelque chose comme
en
ça,
récidive,
en récidive.
Voilà. Plus un petit stage de sensibilisation pour pas que tu recommences derrière. Un stage qui doit être très drôle à suivre. Ouais.
Mais après, dans la pratique, bon, depuis là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je crois qu'ils en sont à 3 000 amendes depuis le début, donc environ en moyenne 1 000 par an.
C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ?
C'est beaucoup plus que tous les autres pays réunis où il y a une pénalisation des clients, mais qui sont des pays qui n'ont pas la même population. Mmh. Donc voilà. Mais je pense que ça peut paraître peu parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est, enfin beaucoup de régions en France où c'est pas du tout appliqué. Mais même là où c'est pas appliqué, en réalité, il y a un impact qui est en réalité pour tout le monde, c'est-à-dire que nous en tout cas en tant que travailleurs du sexe, on perd des clients et les clients qui restent, ils ont tendance à plus négocier, donc les conditions de travail sont vraiment dégradées. Donc en fait, même dans les endroits où c'est pas appliqué, on constate qu'il y a des effets de cette loi. Donc en réalité, un seul client suffirait pour que ça fasse trop déjà.
D'accord, ok. On va en parler jusqu'à 22h30, mais je présente Anso, parce que Anso, si on la présente pas, après elle pleure, elle se roule en boule, et nous on est embêtés avec Joseph parce qu'on sait pas quoi faire après. Donc,
faut la dérouler.
Ça va Anso ? Elle est dans la room, elle parle avec vous, posez-lui des questions, et puis soyez cool avec elle, sinon on vous met des front kicks avec Joseph, faut le savoir. Voilà.
C'est ça.
Tu te mouilles pas trop, hein, tu te mouilles pas trop. En tout cas, on dit bonsoir à la Rome, vous êtes toujours aussi cool. Il y a Duo de Chevalier, je vois, ils sont toujours là. Ouais. Néphélim aussi, toujours là aussi. Puis voilà, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bah, bienvenue à vous, Joseph. Tu cartonnes aussi. Tu cartonnes tout le temps, en fait. C'est vraiment, c'est incroyable. Ouais, plébiscite.
C'est très gentil.
Plébiscite.
Ah bah, dis donc, oh là là. Nous, j'étais plus.
Nous, c'est quelque chose qui nous échappe un petit peu avec Quentin, qui n'a pas ses éloges, là.
Non.
Voilà.
Ben, il est là moins souvent, Quentin. Voilà. Et puis bon, il a été le juge d'un concours de suçage de bites. Donc, quand on a été juge d'un concours de suçage de bites, de toute façon, ta vie peut s'arrêter tout de suite après, tu l'as réussi. Voilà, c'est tout, point barre.
Tu veux nous parler de quoi ce soir, Quentin ?
De sextoy.
Non, mais à part ça. Parce que moi, j'aime bien, c'est Quentin, je lui demande tous les lundis, quand il vient dans l'émission, de quoi tu vas parler. Il me dit, comme d'habitude, des sextoys inhabituels. Ça rassure pas, des sextoys inhabituels.
Non, mais j'essaie d'apporter des trucs un peu hors du commun. Le Monkey Spanker, c'était quand même un truc hors du commun.
Ouais, c'était un masturbateur assez fin, très très chelou.
Tu en as pas un exemple?
Ça s'appelle un décapsulateur de bites. C'est une...
Un décapsuleur de bites.
Décapsuleur, ouais.
Non, mais ça s'appelle décapsulateur.
Décapsulateur, ça fait film avec Schwarzenegger.
Le décapsulateur.
C'est bidon. Mais voilà, je sais pas ce que tu vas sortir derrière
les
fagots.
En fait, j'ai pris quelques. Alors, j'ai pris un toy un peu inhabituel et surtout, j'ai pris des toys qui étaient populaires ce week-end au salon érotique de Rennes.
Ah, d'accord.
Ce qu'on m'a le plus demandé, je me suis dit, allez.
T'as passé le week-end à Rennes?
C'est ça.
Ça va, c'était bien?
C'était fatigant.
C'était fatigant, bah oui, les salons, c'est un petit peu fatigant. On aura Peggy Sastre aussi au téléphone, Flore.
Ouais, Peggy Sastre qui est essayiste. Qui a sorti le plus récemment Comment l'amour empoisonne les femmes et qui se prononce beaucoup sur des questions de féminisme, qui a aussi un sujet sur la prostitution et le travail du sexe de façon plus large, qui a aussi écrit La domination masculine n'existe pas, qui est vraiment le livre qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Parce qu'il est assez, assez polémique. Et oui, c'est quelqu'un qui est un peu, qui a le goût de la provoque, qui aime bien provoquer par ses idées. Et
elle
qui
est
aime
disruptive,
pas...
je dis.
Elle est très disruptive et elle n'aime pas toutes les féministes, même si elle en est une elle aussi. Et je pense qu'elle elle nous expliquera ses combats.
Bon. Certaines féministes ne l'aiment pas non plus.
Ah oui, non. Ouais.
On va montrer son bouquin, La domination masculine n'existe pas. Ça a beaucoup fait parler. Et bah, elle sera là pour en parler avec nous. C'est par téléphone.
Et celui-là, c'est le plus récent. Comment l'amour empoisonne les femmes, c'est très bien. Moi personnellement, à titre personnel, ça n'engage que moi, mais j'aime beaucoup ce qu'elle écrit.
Anaïs le veut, mais donne le bouquin.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, tu veux lequel?
Elle ne veut pas donner.
Et pourquoi j'aime bien? C'est parce qu'elle se base sur les théories de Darwin et de la biologie pour faire avancer le débat féministe. Elle explique pourquoi peut-être on en serait là aujourd'hui et évidemment comment on peut évoluer vers un monde meilleur, plus beau, plus gentil, plus sain, plus serein.
Il y aura les questions de Flore. On va innover ce soir. Oui. C'est fini. Question
c'est plus,
pour un champion.
C'est pas une question. Ça sera une sorte de le juste prix, comme on parle de sexe et d'argent. Faudra trouver le juste prix des différentes questions que je vais vous poser.
Je veux une vitrine à gagner, moi, alors. Je veux une vitrine du quartier rouge d'Amsterdam à gagner. Pour le juste prix.
Livré par Philippe Rizzoli.
Avec Benjamin dedans, comme
avec
ça.
Une petite voilà, avec personne ne voudrait de moi dans une vitrine.
Et les sex toys de Lelo.
Attends, tu seras en string sur la Porsche, mon gars. Attends, normal. Une Porsche qui tourne, tu sais, avec toi en string dessus.
Ah, oui, c'est vrai que ça faisait ça.
Ouais.
Ah, mais oui, ça faisait ça.
Ouais, bah oui, tout à fait.
C'était pas cliché à l'époque, hein, déjà, le juste prix. C'était pas.
Bah écoute, c'est un jeu américain, The Price is Right, avec mon superbe accent. Et tu sais, c'est
tu peux la refaire
The Price is Right.
Ouais, ouais.
Et ils ont repris tous les codes. C'est comme question. Qui veut gagner des millions? Ou tu sais, quand tu achètes un concept, faut que tu aies le décor, faut que tu aies tout, faut que tu respectes une charte. Et juste prix, c'était aussi ça, je crois.
D'accord.
Enfin, bon, bref, on s'en branle, non?
Thierry, qui a un bon accent, tu juges comment le...
Je pense que dans le monde anglo-saxon, on prête beaucoup moins attention aux accents, justement, et que c'est un problème français.
Il y en a 40 000 des accents dans le monde anglo-saxon.
C'est vrai.
Rien qu'en Angleterre, ça fait la taille d'un timbre-poste à 10 000 accents. Donc oui, effectivement, oui.
Alors pour reparler de la prostitution, moi j'ai, pour être tout à fait transparent, on en parlait ce matin quand on préparait l'émission avec Flore, et pour moi la prostitution était interdite en France. Et Flore m'a dit, bah écoute Benjamin, non.
Elle n'est pas interdite.
Non, d'accord. Mais je pense que si, moi je me suis posé la question, d'autres se la posent, quelle est la législation autour de la prostitution en France? Qui veut répondre à cette question? Anaïs.
Alors la législation en France sur la prostitution... Comment dire ? En fait, c'est assez simple. Il n'y a aucune législation sur l'exercice du travail du sexe. Okay. Donc, le travail sexuel est autorisé. N'importe qui peut effectivement décider du jour au lendemain d'exercer un travail sexuel quel qu'il soit, que ce soit être escorte, traditionnelle ou autre, en respectant les obligations de tout citoyen, c'est-à-dire se déclarer, etc., payer ses cotisations URSSAF. La législation entoure en fait tout ce qui est autour du travail sexuel. Donc il y a le proxénétisme qui condamne absolument toutes les activités qui aident ou permettent d'exercer. Donc à la rigueur, quand vous achetez des capotes, limite votre pharmacien il est proxénète parce qu'il vous vend des capotes et ça va être pour exercer le travail sexuel.
C'est au-delà du réseau en Europe.
Ah non, ça n'a rien à voir avec le réseau.
Ouais, c'est-à-dire que le propriétaire, si tu loues un appart.
Voilà, le propriétaire, s'il est au courant, est proxénète, donc il est obligé de vous mettre dehors. Si je vis avec quelqu'un, cette personne est proxénète parce que potentiellement elle pourrait vivre de mes revenus. Même
tous
si
les tiers de l'activité, quoi.
Toute personne qui, d'une façon ou d'une autre, ayant un bénéfice ou sans bénéfice, ou même payant, à partir du moment où vous aidez quelqu'un qui exerce le travail du sexe, vous êtes condamnable en tant que proxénète. Et puis il y a maintenant la loi donc dite de pénalisation du client qui fait que nos clients sont condamnés s'ils viennent acheter nos prestations. Mais nous, on a le droit d'exercer. On a le droit d'exercer, on a le droit de payer nos taxes, on a le droit de payer notre URSSAF. On a quasiment tous les droits d'un citoyen lambda sans avoir aucun droit.
Parce que moi j'ai parlé d'une métaphore, merci Anaïs, j'ai parlé d'une métaphore avec Flore ce matin, c'est comme si on créait une voiture mais qu'on n'avait pas le droit de la vendre, ni bosser avec des concessionnaires pour
en
la
fait,
vendre.
En fait t'as le droit de la vendre mais les clients qui rentrent chez toi, ils se font pénaliser.
C'est ça en fait.
Enfin, ils ont le droit entre guillemets mais ils payent une amende en fait.
Ouais.
Enfin, c'est...
Donc quelle est la différence entre c'est interdit et on n'a pas le droit d'exercer ?
Et bah c'est unique en France, c'est pour ça que la QPC a été posée, parce que c'est une grave entrave à la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où n'importe quelle activité n'est pas interdite par la loi, tu devrais pouvoir l'exercer librement. Et donc si tu pénalises les clients, c'est un problème. Sauf que non. Et c'est la première fois historique où l'activité est légale, mais tous les acheteurs et tous les potentiels clients sont illégaux.
C'est ça.
C'est unique.
C'est très bizarre. C'est comme vendre des cigarettes et interdire de fumer, quoi.
C'est ça.
C'est un petit peu ça.
C'est chelou.
Il y a Chris Lowe dans la room qui dit le droit de travail, mais sans travail.
Oui, alors moi, je veux bien ne pas travailler, mais continuez à me payer, s'il vous plaît.
Ah, mais ça, c'est complètement fou.
Ah, bah oui.
Bah, c'était tout l'enjeu de la QPC, c'est qu'effectivement il y a une vraie incohérence au niveau du droit entre d'un côté pouvoir être condamné pour travail dissimulé si on n'est pas déclaré, donc avec une reconnaissance de la justice, du fisc, de l'URSSAF, voilà, faut payer ses cotisations tous les mois, etc. Et de l'autre côté une entrave directe à l'exercice du travail avec nos clients qui sont pénalisés, donc plus bon certains aspects du proxénétisme effectivement qui peuvent limiter aussi le droit de louer, d'accéder à un logement ou la vie privée familiale, enfin, il y a pas mal de choses. Mais le problème, donc c'est que le Conseil constitutionnel a considéré qu'au regard donc de la traite, de la lutte contre la traite des êtres humains et du proxénétisme, on pouvait limiter certaines libertés, et donc le législateur était légitime à le faire. Voilà.
Sachant que la traite des humains est interdite en France.
Oui, c'est alors ça. Pourquoi on n'interdit pas Amazon ?
Oh, le mec, suivant cette logique, on pourrait interdire. Élise Lucet, ça va ?
Non, mais je trouve que c'est une remarque juste parce que la traite des êtres humains, ça existe dans tous les secteurs économiques. Et donc, il faudrait interdire d'acheter à manger, d'acheter des vêtements.
Et la traite des vaches et le lait.
Non, alors ça n'a aucun rapport, j'ai envie de dire.
Mais
typiquement, dans le bâtiment, il y a de la traite humaine. Dans la couture, il y en a aussi. Dans la restauration, et on le sait. Et par contre, personne ne dit rien.
Il y a une vraie hypocrisie. Comment était la loi avant 2016 ? C'était quoi
C'était pas forcément mieux parce qu'il y avait le délit de racolage public. Ouais. Donc il y a aussi c'est une pénalisation là, qui est plus directe sur les travailleurs et travailleurs du sexe eux-mêmes. Après, les lois sur le proxénétisme, elles sont là depuis très très longtemps. Il y avait déjà des arrêtés municipaux, mais je pense que ça a augmenté depuis qu'ils ont dépénalisé le racolage public au niveau national. Il y a beaucoup de municipalités qui l'ont remplacé par des arrêtés locaux pour interdire la présence dans l'espace public. Bon, enfin, je ne veux pas dire que c'était mieux avant au sens où il y avait moins de précarité, que l'impact se faisait... disons que moi, par exemple, beaucoup de collègues qui travaillent dans la rue diront que finalement, elles préféraient passer une nuit en garde à vue pour accolage, parce qu'au moins, à la fin du mois, elles savaient qu'elles pouvaient toujours avoir le même niveau de revenus et payer leur hôtel ou leur loyer, etc. Là, si tu as quand même un certain pourcentage de clients en moins et donc de revenus en moins, ça crée des situations où il y a des gens qui se retrouvent à la rue, qui ne peuvent plus payer les études de leurs enfants, enfin plein de choses importantes pour elles dans leur vie. Et donc la différence, elle est plus là, en fait.
Alors du coup, comment a changé le comportement des clients, vu que c'est eux maintenant qui sont...
Alors, il y a beaucoup, beaucoup plus de négociations, en fait, de négociations des tarifs, des pratiques. Donc, de plus en plus de pratiques à risque, parce que quand vous avez très peu de clients, il y a un moment où, dans certaines situations, vous n'avez plus le choix. Donc, il y a pas mal de soucis.
Ça va ?
Oui, je suis juste en train de
m'étouffer. Il y a des concessions qui sont faites, c'est ça ?
Alors, oui, c'est-à-dire qu'on arrive au stade où, quand vous avez perdu 75% de vos revenus et qu'une semaine, vous n'avez plus de clients du tout, ben, celui qui vient, même s'il vous oblige à faire des choses que vous ne faites pas a priori, si c'est le seul de la semaine, vous le prenez. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent obligées d'accepter des rapports non protégés. Donc, il y a de plus en plus de contamination. Beaucoup plus d'agressions aussi, parce que, comme les clients ont peur d'être arrêtés, on est tout obligé finalement de se cacher plus et d'assurer plus de discrétion. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a toute une branche de la population aussi qui se rend bien compte qu'on est très isolé et qui se fait passer pour client juste pour venir nous braquer. Donc il y a aussi ce problème-là où on peut
de sécurité,
on ne peut pas deviner qu'une personne se fait juste passer pour un client, prend rendez-vous et vient juste pour vous braquer. Donc on a aussi beaucoup plus d'agressions, de violences, de choses comme ça. Et les plus touchés sont en fait les plus précaires. Donc bizarrement, la loi, elle a accentué la précarité des personnes qui étaient déjà dans des situations très très difficiles. Et on constate aussi une augmentation des situations de proxénétisme et de traite. Parce que pour pouvoir continuer à travailler, beaucoup de collègues sont obligés de faire appel à des intermédiaires, alors qu'elles travaillaient de façon indépendante avant. Donc il y a une augmentation en fait du proxénétisme et de la traite depuis la loi.
Tout le contraire de ce que on veut.
Tout à fait.
De ce que le législateur voudrait.
Tout à fait. C'est totalement contre-productif.
Alors on demande, je ne sais pas quelle serait la solution, mais demander aux travailleurs du sexe comment ils souhaitent travailler, ce serait déjà un bon début.
Oui, c'est très très bonne remarque. Mais je pense qu'après, le souci, c'est qu'effectivement, on est face à une idéologie qui va du coup nier la parole des personnes parce que, historiquement, je pense que c'est l'Église, je pense que c'est des gens qui sont chargés de la, on dit réinsertion sociale aujourd'hui, à l'époque on disait réforme, réhabilitation, et donc ils veulent qu'on les écoute eux. Et donc ils vont inventer des théories comme le fait qu'on soit endommagé psychologiquement, qu'on était violé dans l'enfance, qu'on est manipulé par des proxénètes, que je sais pas. Enfin, il y a plein de théories pour justifier le fait de, en fait, faut pas écouter ces personnes-là. Et puis la classe politique, pour essayer de faire un petit peu de lobby du coup, pour essayer de faire avancer les choses, on voit bien que même le simple fait de nous parler, ça peut mettre en danger, c'est pas que les politiques, hein, même dans le tissu associatif, dans l'université, des universitaires, enfin moi. Et du coup, si la stigmatisation elle est aussi forte que ça nous touche nous, mais ça touche aussi les gens autour de nous qui, comme on l'a vu avec les lois sur le proxénétisme, peuvent être pénalisés, mais même au niveau de maintenir, de pouvoir faire carrière en politique, si tu dis ouvertement que tu reçois le STRAS ou que tu refiles une subvention ou j'en sais rien, les gens se font harceler parce qu'après il y a des militants anti-prostitution qui vont faire des campagnes de diffamation, des campagnes politiques pour vraiment lutter contre les personnes qui soutiennent les droits des travailleurs du sexe en disant que c'est des pro-prostitution, des pro-proxénètes, des pédocriminels, des je ne sais quoi.
Fait partie des sujets de société aussi qui sont un peu touchy comme la dépénalisation du cannabis, toute proportion gardée, mais c'est des sujets qu'on n'ose pas trop toucher. Ouais. Au fond, je pense qu'ils sont tous d'accord, mais personne ne va mettre la main dedans parce que c'est un petit peu l'enfer, quoi.
Moi, je ressens un peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on rencontre des gens qui, en fait, sur le fond, sont pas en désaccord avec nous, voire même sont complètement d'accord, mais qui nous disent « c'est pas le moment ».«
C'est jamais le moment ».
« C'est jamais le moment ». ».«
C'est jamais le bon moment pour le faire ».
Et je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de... alors qu'ils voient bien que les chiffres qui sont mis en avant c'est tellement ridicule, bientôt il y aura plus de 100% de victimes de traite à force que le chiffre le pourcentage augmente.
150% de victimes de traite, 150%.
Alors que si, enfin il y a quelques études quand même qui ont été faites, on est plutôt entre 7 et 15 selon les pays européens, on a plus, enfin qui déjà en soi devrait être suffisamment important pour alerter les gens et avoir une vraie politique de lutte contre la traite. Mais en réalité même là-dessus ça fonctionne pas vraiment. Et je pense que c'est une question de peur, c'est une question de pouvoir de force et de rapport de force, de rapport économique aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens, notamment au niveau local, qui vont faire pression sur leur maire, sur les élus locaux pour dire « je ne veux pas de prostitution dans mon quartier » parce qu'il y a des enjeux de spéculation immobilière, de plus-value sur l'appart qu'ils ont acheté, sur... Et donc, il y a en réalité, le combat idéologique, il existe, mais... Même dans des pays dits réglementaristes, je pense qu'il y aurait aussi les mêmes enjeux par rapport à la lutte contre l'immigration, par rapport à la gentrification des villes, toutes ces choses-là. Et on voit bien que les mesures de pénalisation, quel que soit le système juridique en place, bah, servent aussi d'autres sujets et qu'on parle beaucoup de débats. Est-ce que la pression, c'est bien, c'est mal? Enfin, bon, c'est, en réalité, c'est du maquillage, je pense aussi, qui cache aussi d'autres enjeux.
Il n'y a pas que de la morale, ouais, là-dedans.
Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions financières, économiques, derrière.
Bah, au revoir Anaïs, merci, c'était cool. Salut, check. Eh ben, salut, c'est la première fois qu'un invité quitte
l'émission.
On est
l'émission. Mal
reçu. Non, elle revient dans un instant. Thierry, le marché de la prostitution, si on peut appeler ça un marché, il est plus vaste que du physique. Il y a aussi les cams, on en parle aussi dans la room. Il y a GB Lola qui nous dit on peut payer quelqu'un en cam, ça fait partie de travailleurs du sexe, mais en réel, c'est pas possible.
Bah nous, on est assez large dans la définition, hein, c'est-à-dire qu'on veut vraiment inclure...
Elle est basse, la définition du travailleur du sexe.
Oui, parce qu'après, oui. Tu vas mettre aussi les acteurs porno dedans, hein, ceux qui font des spectacles érotiques de façon plus large, selon l'érotisme.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend en compte toutes les diversités, tous les secteurs économiques, qui en fait ne sont pas forcément les mêmes, hein, d'un secteur à un autre, mais si on prend ensemble, oui, ça fait, c'est énorme.
Il y a un spectre qui est assez large. Ouais.
Mais c'est là aussi, sur cette confusion-là aussi, que les prohibitionnistes jouent, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, l'industrie du sexe rapporte autant que le trafic d'armes ou je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est parce qu'ils mélangent genre, la vente de lingerie érotique, les sex toys. Enfin voilà, ils mélangent tellement de tout que du coup, bah oui, tu arrives
à des chiffres énormes.
Oui.
Le travail du sexe en toute conscience, ça doit être quoi, 10% du marché, par obligation, tout le reste. Je pose la question, vendre du sexe, une nécessité, point d'interrogation.
Bah, je pense que le travail en général, c'est une nécessité économique pour tout le monde. C'est pas spécifique et particulier aux travailleurs et travailleuses du sexe. Quand il dit en toute conscience, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà. Après, je pense que si on veut lutter contre le travail forcé, qui là est la vraie question, à l'absence de consentement pour le travail, je pense que heureusement c'est minoritaire. Mais je pense que le vrai problème, c'est aujourd'hui les conditions de la migration. C'est effectivement l'exploitation des sans-papiers. Mais disons que même dans la description, par exemple, qu'on peut avoir de la traite des êtres humains, souvent on représente la personne qui va être kidnappée, enlevée, etc. En réalité, dans la grande majorité des cas, même y compris des personnes qui sont victimes de traite, il y a un désir de migration. C'est juste qu'il y a une tromperie, donc c'est le caractère de tromperie sur le caractère qui définit la traite des êtres humains. Et donc je pense qu'une des solutions, enfin si on veut vraiment, je pense, lutter sérieusement contre ces problèmes-là, il faudrait plutôt réfléchir aux conditions de la migration plutôt qu'à dire c'est les clients qui créent une cause de demande et que ce serait à cause de ça qu'il y aurait une traite des êtres humains. En réalité, la demande des clients, elle a toujours existé. La traite des êtres humains, ça existe soit des moments de crise, genre, je sais pas, de guerre, de génocide, des choses vraiment horribles. En France, bah, ça a été réglementé quand l'esclavage était légal, et donc voilà. Mais sinon, c'est pas un phénomène.
Puis les clients ne veulent pas voir des gens qui sont exploités et qui souffrent. En fait, personne n'a envie de ça, en fait. Même les clients ont envie d'une prostitution libre, éclairée, donc c'est pas eux qui en font la demande.
Non, tout à fait. En fait, une des demandes que moi je constate le plus quand je rencontre des clients, c'est justement, ils veulent avoir la certitude qu'on est bien indépendante. C'est une grosse inquiétude de leur part de s'assurer que la personne qu'ils vont voir exerce de par sa propre volonté. Et je crois qu'effectivement, Thierry est très juste quand il dit que le souci aussi, c'est le travail. En fait, comme si ce travail, on devait forcément l'aimer, alors que n'importe quel autre travail, on vous demandera jamais si vous l'aimez ou pas. Et effectivement, on travaille toutes et tous pour payer nos factures. Oui, c'est évident. Moi, je suis complètement indépendante, consentante, j'ai choisi cette activité. N'empêche que je l'ai choisi parce qu'il faut que je bosse, qu'il faut que je gagne de l'argent. Enfin, oui, c'est un travail. Et je trouve, enfin, c'est un peu comme si vous allez chez le boulanger et vous lui dites, moi, je veux acheter une religieuse, mais par contre, rassurez-moi, vous aimez les faire, les religieuses. Hein. Non, parce que sinon, vous comprenez, moi, je vais pas l'acheter, votre religieuse. Il faut que vous m'assuriez que vous aimez vraiment votre travail. Peut-être que ça fait 30 ans qu'il le fait.
Surtout, il ne faut pas qu'il la fasse avec sa bite, la religieuse.
Mais non, mais voilà. Donc, oui, c'est un travail. Il faut quand même reconnaître ça. C'est un travail et on le fait pour gagner notre vie. Oui.
Alors, ça parle beaucoup de la réouverture des maisons closes. Est-ce que c'est la solution à ce souci?
Non.
C'est vraiment l'image d'Épinal qui revient à chaque fois sur ce sujet-là.
Le jour où demain le proxénétisme est autorisé et youplaboum, ce serait quoi votre...
Non, en fait, ce qui serait souhaitable, c'est que nous puissions nous organiser. par exemple, travailler à plusieurs dans une maison ou pouvoir faire appel au service d'une entreprise quelle qu'elle soit sans que nos intermédiaires que nous choisissons soient pénalisables. Là, si demain je travaille avec une collègue, nous sommes coproxénètes. Donc ça nous empêche de travailler à deux en sécurité. Ça, c'est une aberration. Et il faut changer ça. Maintenant, une maison close... Non, moi, j'ai travaillé en maison close. Pas en France, hein, bien sûr. Et non, c'est pas la solution. Parce que ça veut dire que vous avez une personne qui décide de qui travaille dans la maison close, qui ne peut pas y travailler parce que sa tête lui plaît pas. Et en fait, ça induit des effets pervers. Parce que vous êtes obligé finalement de vous soumettre aux règles de la maison. Donc vous faites pas ce que vous voulez.
Ouais, mais si c'est un travail...
Comme dans une boîte...
Comme dans n'importe quel... Tu faisais parler avec... C'est un métier normal. Quelle est la différence
non,
du coup?
C'est une activité professionnelle. Comme toutes les activités professionnelles, ça reste une activité qui est quand même... Qui touche à l'intime, qui touche à la sexualité, qui touche aux limites de chacun propre. Et donc chacun doit pouvoir imposer ses limites. Dans une maison close, très honnêtement, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez la pression des autres aussi. Et puis parce qu'un patron, il a intérêt à ce que vous travaillez plus, parce que lui, ça lui fait gagner plus. Donc c'est un système qui n'est pas du tout... Il faut qu'il soit possible, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit le système exclusif. Que quelqu'un ait envie de travailler en maison close parce que ça lui évite de poser ses annonces, trier ses clients, etc., pourquoi pas, mais il faut que la personne ait le choix aussi de travailler seule, sans maison close, si elle le souhaite.
En fait, il faut ubériser le marché, quoi.
Bah, il est déjà ubérisé, le marché.
Oui, mais favoriser des sites de mise en relation, des appartements adaptés, en gros,
faire en sorte qu'on puisse travailler en choisissant nos intermédiaires de façon indépendante.
Faire un upwork du cul, tu vois.
Moi, parlerai, je dirais pas qu'il faut ubériser le marché. Parce que je pense qu'il est déjà ubérisé parce que la prohibition crée la loi du plus fort et crée une situation où on est obligé de s'adapter aux demandes, à ce qui existe, etc. Je pense qu'en fait, le droit du travail est là aussi pour protéger les gens. Mais le problème c'est que de la prohibition, c'est que du coup, c'est une absence de droit du travail. Et si on est contre les maisons closes, c'est pas que parce qu'on serait contre le salariat. Bon, il y a des gens qui préfèrent être salariés, ok. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est des réglementations coercitives. Et quand on légalise un type de travail sexuel, en général, c'est pour pénaliser les autres. Donc, par exemple, voilà, on va dire, là, vous avez le droit de travailler dans un endroit clos. On ne veut pas vous voir dans le reste de la société. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Ou alors, on va dire, il y a une zone de tolérance où de telle heure à telle heure, la police tolère que tel espace, vous avez le droit. Mais que de cette rue à cette rue, si vous dépassez la rue, vous pouvez être arrêté.
Non, mais demain, avec Internet, tout ça devient complètement aberrant. La maison close devient de plus en plus aberrant à l'heure des nouvelles technologies, des applications de rencontres. Enfin, maintenant, elle se fait en ligne.
Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens travaillent via Internet. Pour nous, un des enjeux serait, par exemple, par rapport aux annonceurs, avoir une coopérative où on fait nos propres annonces.
Bien sûr.
Et ça, c'est vrai que c'est limité à cause des lois sur proxénétisme, c'est-à-dire tout ce qui est le droit de s'associer, le droit de travailler en intérieur ou de s'auto-organiser entre nous, ça, on ne peut pas le faire légalement. Donc ça, pour nous, l'enjeu, il est plus là, plutôt que de repenser aux trucs très nostalgiques, des vieux modèles d'avant-guerre où tout le monde... Enfin, je pense que si des gens veulent le baiser en intérieur, oui, évidemment, ça devrait être possible, mais c'est... disons qu'il faut de là à revenir sur un modèle, parce que c'était quand même un modèle où on était enregistré avec une carte spéciale, avec un dépistage obligatoire, qui n'était pas protecteur par ailleurs. Enfin, voilà, c'était un système de contrôle. C'était pas un système où on respecte le droit du travail des gens, ou... voilà, enfin, c'est... Oui.
Bah non, ouais, je t'écoute. Je pensais que tu n'avais pas fini ta phrase.
Il y avait ce truc en Allemagne d'une nana qui voulait lancer cette application là pour trouver sa prostituée, un peu comme un Uber juste à côté. Ouais, ça n'avait pas marché. C'est un peu dommage.
Je crois qu'ils l'ont fait, mais je suis pas sûr que parce que sur Twitter,
un truc comme ça.
Je pense qu'il y a des gens qui vont toujours tenter essayer de gagner de l'argent comme ça, mais je sais pas si ça prend. Enfin, peut-être un jour ça marchera, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas.
Et alors, comment on les trouve aujourd'hui les clients?
Sur Internet. Enfin, ils viennent vous chercher sur Internet.
Ils viennent vous chercher.
Oui, il y a pas mal de sites qui existent, qui sont des sites installés à l'étranger. Puisqu'en fait, dans les pays où ça ne pose pas de soucis, donc ils créent des sites spécifiquement pour la France, en fait. Et l'inconvénient, c'est que, comme nous, on ne peut pas s'organiser, par exemple, pour faire un site à nous, où tout le monde pourrait mettre des annonces, et ben, ces sites-là nous font payer assez cher, parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix.
Bien sûr.
Donc, un exemple... J'ai deux exemples de sites où le premier est à 100 euros par mois. Il faut quand même travailler pour les rentabiliser. Et l'autre, il est à quelque chose comme 250 euros par mois. Et globalement, si vous ne payez pas votre annonce, quand vous êtes dans une petite ville, ça va, on vous trouve facilement. Mais quand vous êtes sur Paris, où il y a plus de 5000 collègues qui sont en ligne...
Il faut payer pour sortir du lot.
Ah, on est obligé.
Ouais. D'accord. Ouais. Un avis, Quentin, sur ce qu'on dit depuis quasiment une demi-heure?
Moi, je suis un libéral profondément. Enfin, c'est très le libéralisme est profondément ancré chez moi. Donc, je suis pour l'absence de barrières et de règles. Limite un peu anarchiste sur les bords. Donc, à partir du moment où on interdit des choses, pour moi, c'est une aberration.
Libéral libertaire.
Ouais.
68 heures va.
Il paraît un peu jeune pour un 68 heures quand même.
Ah, mais c'est l'esprit de 68 est en lui, ça se voit.
Ouais. Oui, donc en fait, alors après, ce qui me. J'ai une expérience un peu différente, puisque j'ai une amie qui escorte aux Pays-Bas et qui a un contrat de travail. Mmh. Et finalement, ça lui convient très bien d'avoir un contrat de travail. Donc finalement, c'est pas forcément à exclure.
Non, pas du tout. Je pense
que c'est que
ça...
tout soit possible en fait.
Voilà, il faut que tout soit possible. Moi, j'ai des collègues qui aiment travailler en salon parce que elles ont pas à s'occuper de leurs annonces, de prendre leur. Mais il faut pas que ce soit la seule solution parce qu'il y a des tas de gens pour lesquels ça ne convient pas.
Oui, bien sûr, c'est ce que tu disais, Thierry.
Oui, mais c'est peut-être une spécificité du mouvement des travailleurs de sexe en France qui effectivement traditionnellement est plutôt une approche. Artisanale ou qui est plutôt méfiante vis-à-vis du salariat, parce que peut-être qu'il y a eu justement l'expérience des maisons closes avant-guerre ou qui était plutôt une mauvaise expérience.
En Allemagne, c'est pas hyper souhaitable non plus ce qui se passe.
C'est-à-dire que si elle a un contrat de travail, c'est bien, mais en général, c'est plutôt vous allez garder un statut de travailleur indépendant et on va vous faire louer. Moi, j'ai travaillé qu'une semaine à Amsterdam en vitrine, en travesti. C'est pas une patronne, la patronne, mais c'est la propriétaire. Faut quand même de la vitrine, faut quand même la payer tous les jours. Je crois que c'était 100 euros la journée, 200 euros la vitrine la nuit. Ça veut dire faut faire tes clients et en fait. C'est pratiquement la moitié, voire pour la nuit, j'en avais pas fait assez. Je payais plus de la moitié juste pour louer la vitrine. Donc tu te dis, c'est aussi une forme d'exploitation, même si officiellement, c'est pas du proxétisme, c'est pas du salariat, mais un carré de vitrine, pourquoi est-ce que ça se prie là, alors que tu loues un appart Donc, il y a quand même des enjeux derrière, mais pour moi, c'est pas que une question de loi. C'est-à-dire que ça peut être parfaitement légal et avoir une exploitation parfaitement légale, et dans la prohibition, avoir aussi une exploitation qui est plus forte parce que la logeuse va te dire « moi, je prends un risque légal, donc tu me fais payer trois fois le prix du marché ». Donc, pour moi, c'est plus une question de rapport de force et comment nous, on arrive à être syndiqués, on arrive à, du coup, imposer nos propres conditions, que soit en nous auto-organisant, du coup, sans passer par des intermédiaires, soit avoir un rapport de force suffisamment fort pour que les intermédiaires, du coup, ne soient pas eux qui fixent les conditions et que ce soit nous qui puissions dire et négocier « non, en fait, nous, on n'accepte pas de faire ça, pourtant, voilà, quoi ».
Joseph, ton point de vue avant de jouer au juste prix avec Flore.
Écoute, moi, mon point de vue, c'est celui des gens qui font ce travail. Je veux dire, j'en ai pas, si ce n'est j'écoute ceux qui font ce travail, ce qu'ils en pensent et ce dont ils ont besoin, sachant que moi, moralement, je n'ai aucun problème avec ça. Après, c'est aux gens qui font les lois d'écouter, de les écouter. Tout simplement, mon point de vue, c'est ça, si tu veux. Si on me demande est-ce que tu veux que la Corse soit indépendante, je te réponds, demande aux Corses.
Demande à ceux qui sont concernés.
Voilà, demande à ceux qui sont concernés, exactement. Après, moi, je suis exactement comme Quentin, je suis un grand libéral libertaire dans l'âme. Et donc moi je suis tout à fait à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Et voilà.
On va demander l'avis des gens dans la room et puis après on va jouer avec toi, Flore. Question de Val d'Or avant d'y aller. Il y a des prostituées escortes auto-entrepreneurs?
Oui, mais oui.
Voilà. Je relais les questions.
Ah oui. C'est pas une question, c'est une affirmation.
Non, il y a un point d'interrogation. Donc pour moi, c'est une question.
Alors,
ils ont choisi quoi comme activité alors?
C'est massage, non,
service à la personne.
Service à la personne,
prostitution.
Sur la roulette.
La catégorie existait à une époque, elle a été supprimée. Ouais.
Alors, elle existe toujours. Le code NAF existe toujours. C'est juste qu'elle n'apparaît plus sur le site internet. Ils ont changé.
Ils l'ont remplacé par dealer.
Même code NAF.
Moi je suis déclaré en tant que travailleur du sexe par exemple.
Ah d'accord. Donc, mais ça fait longtemps.
Ça fait plusieurs années. C'est vrai que l'intitulé en tant que tel n'apparaît pas sur le site, mais c'est une sous-catégorie du service des hôtesses. Voilà, donc je crois que c'est.
Faute de mieux.
Je reçois sur mes papiers, c'est autre service personnel, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, autre service à la personne.
Ça n'apparaît pas sur le site, alors ils veulent que les travailleurs du sexe rendent à l'URSSAF. Hein. Ils veulent vous avoir dans leur bureau pour vous dire voilà, je fais travailleur du sexe, c'est ça le délire?
C'est pour vérifier sur pièce. Hein.
Ah, c'est pour vérifier sur pièce, d'accord, exactement.
Dans un instant, nous allons appeler Peggy Sastre, Flore, mais avant, Mais avant, nous allons jouer au juste prix. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, le juste prix, eh ben, vous allez tous prendre une petite feuille.
Ah là là, je suis content, ça y est, j'ai envie de jouer.
Merci.
C'est parti, c'est parti.
Joseph, tu joues ou pas? Tu seras un peu loin pour jouer?
Ouais, je serai un peu loin, je suis avec vous en pensée.
Oh, c'est gentil,
bon,
c'est gentil,
je vais vous
Joseph.
Poser une question, il faut que vous écriviez le chiffre et celui qui est le plus proche gagne un point.
Il y a combien de questions en tout?
Il y a 6 questions.
Il faut savoir.
6 questions, il y a donc 6 points.
D'accord.
Attention,
Thierry,
première
Anaïs,
question.
Vous êtes prêts? Ouais, Quentin, t'es prêt?
À quel montant Alexandra Kefren, une Roumaine de 18 ans, a-t-elle vendu sa virginité en passant par le site d'escorting allemand Cinderella Escort? Le prix d'une de la virginité d'Alexandra Kefren, une Roumaine.
C'est bon, je l'ai. I got it.
Kefren?
Kefren. Oui, ne juge pas les noms.
Kefren, je sais pas, ça se trouve, mon accent est déplorable.
Amy Kerinos? Non?
Bon, je l'ai pas grave,
c'est pas grave.
Je l'ai pas, je l'ai
pas. C'est pas grave. Peut-être quelqu'un là, quelque part dans l'espace. Continue.
Alors, je regarde juste votre feuille. 100 000, 1 million, 1 million, 10 millions, 1 million. Donc, un point pour vous deux, c'est 2,3 millions d'euros.
1,2 millions d'euros.
Comment ça, c'est too much hein?
C'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent.
Non, mais c'était en franc CFA, t'as gagné. Ah. Parce que t'as pas dit en quelle devise c'était ton chiffre. Hein, donc.
Voilà. C'est un riche sénateur sénégalais.
Tu sais quoi, Naïs? Si on est capable de mettre 1 million, on est capable de mettre 10 millions. Tu vois, donc c'est, franchement,
oui,
c'est possible.
Bien sûr.
Possible.
Bien sûr, la virginité n'a pas de prix.
Mais on s'en fout, c'est nous qui avons les points.
Okay. Deuxième question. Quel a été le prix de l'indemnité à laquelle a été contrainte de payer Jean-Louis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour absence de relations sexuelles avec son ex-femme? C'était en 2009. Absence de relations sexuelles avec son ex-femme. Il était resté 10 ans avec elle. Il
Alors
a dû payer combien?
Je sais quand on a des rapports, ça je sais, mais quand on n'en a pas, je ne connais pas les tarifs.
Eh oui, on peut payer parce qu'on ne baisse pas.
Genre puni de pas de rapport. D'accord.
C'était Putain, et j'attends mon chèque. Pardon.
En euros, évidemment.
Oh, 3 000 euros, moi.
3 000, c'est un petit... Anaïs.
C'est symbolique.
50 000, 10 000.
50 000.
1 euro.
10 000, Thierry, un point. Mais 10
000.
Oui.
10 000.
Ils n'ont pas fait 1 euro symbolique.
C'est énorme.
C'est Thierry, en fait, le Jean-Louis. C'est lui qui n'a pas couché avec sa femme.
Ah bah bravo, Jean-Louis.
Je vais faire escorte, j'arrête. Okay.
Et bah 2 points pour toi, Thierry. Bien, ouais.
Bien joué.
C'est énorme. Enfin, ouais. Non, mais c'est énorme. Bah, je pensais que ce serait.
C'est super toi, chouette. Moi, je pensais que c'était un euro symbolique.
Ouais, je pensais que c'était symbolique, quoi.
Bah ouais. Genre, le contrat de mariage sera pas cassé.
Non, mais elle peut s'acheter un beau sextoys après à 10 000 euros.
Ah bah, à 10 000 euros, tu mets.
Tu vas chez Lélo, tu
vas chez Quentin.
Alors là, t'es refaite. Waouh, wow. Pour les 10 prochaines années, là, t'es refaite.
T'as de quoi jouer pendant 20 ans.
Ah bah, il y a Amateur 042 qui avait trouvé 10 000, Val d'Or 9 000, 50 000, 100 000 pour Photogirl. Bah, ça fait beaucoup quand même. Un euro symbolique, Inax, pensé comme Joseph. 70 000 euros, 45 000, 75 000, 40 000. Ouais, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est beaucoup.
C'est beaucoup
d'argent, c'est beaucoup d'argent.
Celui-là, vous l'avez peut-être, certainement. Quel est le montant prévu par la loi pour la sanction de l'article 222 du Code pénal? C'est l'exhibition sexuelle.
Ah, c'est beaucoup d'argent, ça aussi.
Vous risquez combien?
Je l'ai vu tout à l'heure.
Trahi.
Je ne risque pas de la tôle aussi, non? Que de l'argent?
Ah si, non, je crois qu'il y a...
Ouais, il y a,
y a
du pénal aussi, ouais. D'accord.
10 000, 3750. Ça, c'est confond avec la pénalisation du client. 350
000 euros. 350 pour Anaïs.
Et c'est 15 000 euros.
15 000
ça, c'est donc
bien
Quentin
joué,
qui a
joué,
le
Quentin.
Point. Bien joué. On en est où, là, au point? Toi, tu as...
Thierry a 2 points. Quentin a 1 point et j'ai 1 point également.
D'accord. Anaïs, il ne manque plus que toi.
Il y a encore 2 questions, tu peux te refaire.
Il y a encore 3 questions.
3 questions.
3 questions, pardon.
Oui, parce que vous aviez une égalité.
3 questions.
Il y avait une petite égalité.
Mais on a fait un double avec Thierry.
Enfin bon. Combien coûte en euros, attention, question très compliquée, un câlin avec un panda au zoo de Chengdu en Chine? Un câlin, un vrai câlin, hein, pas un câlin, c'est pas une métaphore. Sachant qu'il comprend également la location d'une tenue de protection.
Quel est le rapport avec
ah
le
bah
sexe?
Ouais, bah c'est marrant parce que je me disais, un câlin avec un panda, c'est comme ça qu'ils les nourrissent. Eh, hey, paye pour non, faire un câlin au panda.
Je sais pas,
ils prennent de la thune.
Bah, c'est de l'affection, c'est-à-dire qu'il bah, y a certaines prostituées qui peuvent se faire payer juste pour faire des câlins. Donc ça reste une prestation affective.
Des papouilles avec un panda. Combien ça
euros,
coûte ça?
1000 euros pour faire un câlin à un panda. 10 000 euros le câlin avec le panda.
Allez, 2500 euros.
Décidément, tout ce qui touche à l'affection coûte cher. Hein. C'est fou, hein. C'est vraiment. Attention, ça prouve que c'est rare l'affection en ce bas monde.
En Chine, hein, c'est la Chine.
Particulièrement peu effectueux, les Chinois.
100 000 euros.
100 000 yens pour Titeuf.
Combien, 2500? Tu m'avais mis combien?
Alors, les yens, c'est au Japon. Hein. Dis à Titeuf que...
Anaïs, un point, c'est 240 euros le câlin
voilà,
avec
joué,
le panda.
Bien joué.
Quand même, un câlin avec un panda.
Tu te refais.
Ouais.
Bon, il y en a de moins en moins des pandas, il faut les câliner. Hein.
Oui.
Oui.
C'est vrai, on va aller à Beauval, Flore. On va faire une émission à Beauval,
grave.
On va faire des câlins avec le petit panda.
Ah ouais,
trop bien.
Quelqu'un m'a dit que c'était parce qu'ils avaient la flemme de baiser.
Oui, alors il y a aussi un vrai métier qui est on leur montre des pornos et parce qu'ils n'arrivent plus à se reproduire, il y a des problèmes de libido chez les pandas.
Il faut les booster un petit peu.
Voilà. Et en fait là c'était juste parce que les petits pour pas être conditionnés aux humains, ils se déguisaient en panda et ils faisaient des câlins. Alors il y a aussi des vrais métiers où on peut câliner les pandas. Mais c'est très mignon. C'est
tu fais quoi dans la vie? Eh ben je me déguise en panda pour faire des câlins.
Pour faire des câlins.
Je trouve ça formidable, c'est un super
et t'as
métier.
Des vidéos, tu verras ça, c'est magnifique, c'est trop mignon, t'as envie de tout
ils vont
quitter,
pénaliser...
quitter Wild et faire ça, tu vois. Que
ils
des
vont pénaliser les gens qui veulent faire des câlins au panda, tu vas voir. Ça va vite arriver.
Et en tant que libéral libertaire, moi ça me saoule.
Parce que moi je trouve que franchement donner de l'affection comme ça aux gens, je pense que Jésus aurait quelque chose à redire.
Ça va deux minutes quoi.
Ouais,
c'est
non,
quoi le
attends.
Tag des pandas du coup pour parce qu'ils mettent des
balance ton
balance ton panda.
Balance ton panda.
C'est ça, balance ton panda.
Ouais.
Alors fais d'abord 15 ans de muscu et après balance ton panda parce que c'est balèze quand même. Ouais.
Devoir des trucs avec des bambous, je pense, truc un peu chelou.
Tu crois?
Ah ouais, je pense.
Oh mon Dieu.
Cinquième question.
Oui.
Quel est le prix du sextoys le plus cher au monde? Le Pearl Royal Vibe, créé en 2018 par la marque britannique Fornicari. Et il comportait 2000 diamants blancs et roses de Russie. Écoutez combien?
Ah, en tout cas, on sait qu'il est dans le cul de Beyoncé.
Oh putain.
Non, j'ai ça, bon. Son mari, Jay-Z, enfin bon, bref, c'est pas grave, continuez, donnez
oui,
un prix,
d'accord.
Donnez un prix.
Faut la comprendre.
Attends,
5 millions.
Attends, 5 millions, mais t'es ouf, toi. Allez.
99 000.
15 millions.
50 000.
15 millions.
15 millions.
50 000.
C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent.
Non, 5 millions, toi, c'était
c'est
combien
énorme.
100 000. 15 000.
Et c'est combien, Florent?
Attends, je suis perdu. 1,12 millions d'euros. C'est toi qui es le plus proche, du coup. 5 millions, t'as dit combien?
Moi, j'ai que 50 000, je suis loin.
C'est toi le plus proche.
Tu vois, c'est bien, Quentin. Eh bien, oui.
Attends, non, non, non.
Attends,
non,
Flore.
Mais non,
il y a plus
non.
Proche,
C'est toi, Thierry. Je suis nulle. Oh, je suis fatiguée. 99 000.
Oui, 100 000.
Oui, c'est toi le plus proche, à 900 000 près.
C'est largement lui le plus proche. Hein.
Ah bah, à 900 000 près. On est bon, quoi. Oui, ça. Thierry, c'est toi. Bravo.
Tu es très mauvaise en Philippe Risoli. Je dois te dire, Flore. Mais,
ouais.
Mais au moins, on sait qu'elle
que... Elle ne peut pas faire tourner son micro, là, tu sais.
C'est ça, c'est ça, Camas.
Ouais. Mais Philippe Risoli n'avait pas fait de la clarinette aussi? Non, c'était pas
non c'est Christian Morin.
Ah, c'est Christian Morin, tant pour moi.
C'était la roue de la fortune.
D'accord.
Avec Annie Pujol.
Avec Annie Pujol.
Tu sais qu'elle nous regarde tous les lundis, Annie Pujol.
Ah bah, ça m'étonne.
Hyper sympa.
Ça m'étonne pas.
Hyper ouais. Sympa.
Ouais. Il paraît qu'elle suit jusqu'au cou, Annie Pujol. Non, c'est pas vrai.
Je
non.
Connais Yves Pujol, mais pas Annie Pujol.
Eh bah,
mais Annie Pujol,
elle
mais
tournait les lettres.
C'est
elle
sûr,
qui tournait,
elle
les,
qui tournait
lettres.
Les lettres.
Elle faisait la une de Télé 7 jours tous les jours en 1987.
Mais ouais.
T'étais Annie... où
ça. Ouais.
Enfin bon, bref.
CE2.
Eh, dans la Rome, je veux savoir qui connaît Annie Pujol. C'est évidemment. Putain, ouais. Annie Pujol, quoi.
Thierry, oui, bon, ça me rassure. Okay.
Bon, Thierry a déjà gagné, mais il y a une dernière question pour la forme.
Dernière question pour la forme. En 2016, combien d'hommes ont en France eu recours à une pénoplastie? Alors, c'est pas un chiffre et de l'argent, mais... Enfin, c'est l'argent, c'est l'achat de la pénoplastie. Une opération pour allonger son pénis. Combien d'hommes en France se sont fait une pénoplastie? C'est pas une réponse en euros, c'est une réponse...
C'est quoi? C'est le... quand on coupe le lit...
Non, quand on rallonge.
Ça peut être des injections, ça peut être...
Parce qu'il y a plusieurs techniques pour ce...
Ouais.
Il y a les injections de gras du bide dans
ouais.
La teub. Il y a aussi la.
Ouais,
la
c'est pour l'élargir.
Voilà, ouais. Il y a un petit, on peut couper un petit ligament.
Mais toutes ces opérations ouais. S'appellent la pénoplastie.
D'accord, la pénoplastie. Je n'en ai aucune idée, je dirais 3002.
1000, 3002,
5000.
5000.
Je sais pas.
Ce qui me paraît énorme en fait.
Ça coûte cher, non ça
1000. 513.
513, c'est pas bon.
C'est vous qui avez les Thierry est le grand gagnant.
Bravo, Thierry.
C'est le seul truc dont j'aurais aimé connaître le prix, en fait.
Oui, alors c'est entre 1000 et 4000 euros. Au départ, je voulais vous faire cette question, mais comme ça variait...
Entre 1000 et 4000 euros, c'est pas cher.
Entre une injection et un truc un peu
ça coûte moins cher que
se
refaire les seins, en fait.
Ouais, ça coûte beaucoup moins cher que se refaire les seins.
Refaire les seins à la place.
Je pense que ça peut peut-être monter...
Non, mais justement, j'aimerais bien... Je vais me faire refaire les seins à la place de...
Ça peut peut-être monter, si tu veux, jusqu'à 10 000. Moi, je voyais des à partir de 1000 euros, à partir de 4000 euros, à partir de... Donc, j'avais pas de chiffre.
Ah, d'accord.
J'ai pas fait un devis, donc je ne sais pas exactement. Voilà, 513 personnes.
All right.
Mais ça grossit que la teub au repos, je crois, et que ça joue pas du tout sur la réaction. C'est un petit peu
ça
dommage.
Sert à rien du tout. Bah, alors. C'est juste pour frimer, quoi.
C'est comme des néons.
C'est vraiment
et
un truc de frimer.
C'est le complexe du vestiaire, quoi.
C'est le complexe du vestiaire, c'est tout. Oh, c'est nul.
Tes potes se moquent pas de toi. Ouais.
Oh, c'est tellement nul.
C'est comme si tu changeais les jantes de ta bagnole, mais que le moteur était toujours aussi pourri.
Ouais, non, oh, c'est vraiment nul.
T'as envie de monter dedans, mais une fois que t'es dedans, tu roules pas, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut trouver des métaphores comme ça.
Très bon métaphore, en tout cas.
Voilà, mais je. Ouais. J'ai fait LV2 métaphore.
Très bien.
Merci Flore, c'était oui. très chouette. Bravo Thierry, tu as gagné. Pas loin Quentin, bien joué. Anaïs, t'es remontée sur la fin. Mais bravo.
Oui.
Franchement, bravo.
Et Benjamin a participé.
Moi j'étais là, figuration, comme d'habitude.
Moi je connais que mes tarifs, hein, pas ceux des autres.
Ah bah voilà.
Pas ceux des pandas.
Et bah pas ceux des pandas. Voilà, voilà. Si vous voulez gagner le magazine Union, et ben vous envoyez un message à Anso dans la room en disant « Moi, je veux le magazine Union », vous envoyez vos coordonnées, puis on vous envoie ça. Voilà. Anso qui mange de la pizza pour tout vous dire. Je vous disais, elle répondait pas, mais parce que voilà.
Elle fait un câlin, sa pizza. Sa pizza, elle a payé pour ça.
Ça va, elle est bonne,
la
pizza
pleine.
Elle est très, très bonne. D'accord. Elle est à quoi, ta pizza, Anso? Elle est au fromage, d'accord. Et Joseph me fait des signes pour me dire que Peggy Sastre est au téléphone. Bonsoir, Peggy, comment ça va?
Ça va très bien.
Ouais, super.
Bonsoir.
Bonsoir, Peggy.
Bonsoir. Ça va?
Ouais, ça va, toi?
Je viens de le dire.
Eh ben, je redemande, moi, 50 fois. Et les gens me disent, mais Ben, tout le temps, tu me dis, comment ça va? Tu m'as posé la question à 5 minutes. Voilà, c'est un trait de mon caractère. Je pose... Ça va, Peggy?
Arrêtez, c'est du harcèlement, je portais plainte.
Non, surtout pas. Je te présente Flore.
Oh, bonsoir, Peggy. On se connaît un petit peu. Peggy Sass, pour ceux qui ne la connaissent pas, est essayiste. Ton dernier essai, c'est « Comment l'amour empoisonne les femmes » aux éditions Anne Carrière, que tu as sorti l'année dernière. Très beau livre, et celui peut-être qui a fait plus parler de toi, je pense, ces dernières années, c'est « La domination masculine n'existe pas ».
Oui.
Ouais.
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a... Oui, enfin, en fait, j'en sais rien, je suis pas trop... J'ai pas trop une bonne notion de ce qui fait parler ou pas, mais oui, ça a eu comment dire, ça a énervé des gens qui l'ont pas lu, quoi.
Ouais.
Et bam.
Et alors c'est un peu.
Souvent, mais c'est souvent le truc. Hein.
Ouais. Alors c'est un peu ton truc, c'est la provoque avec des titres un petit peu catchy qui font réagir.
Bah la provoque non en fait. Je me suis rendu compte que les gens prenaient ça comme de la provocation, mais en fait je suis assez naïve de nature et en fait le fait est que j'aime bien faire réfléchir les gens et jusqu'à ce livre là je me disais que faire un livre un peu qui attirait l'attention pour de mauvaises raisons, mais en gros quand on avait lu le livre on comprenait ce qu'il voulait dire.
Oui.
Mais vu que le problème c'est qu'aujourd'hui enfin même pas aujourd'hui c'est pas vraiment nouveau mais enfin bref j'ai fait cette erreur là et depuis comment l'amour empoisonne les femmes j'essaie de faire des titres beaucoup plus clairs
consensuels voilà. Et alors sur la domination masculine n'existe pas, peut-être le seul concept qui est dérangeant c'est que tu ne niais pas en fait la domination masculine, c'est ce qu'on voit dans le livre, mais c'est que l'enjeu c'est le sexe, que la domination c'est un moyen de l'avoir mais que c'était pas une fin en soi.
Hein, en fait, c'est ça. La domination, comment dire, le
concept
le
de
titre, domination. Le titre à compléter pour bien comprendre un peu ce dont le livre parle, c'est la domination masculine n'existe pas comme on pense qu'elle existe. C'est-à-dire que tous les discours purement culturalistes, purement féministes culturalistes sont faux. je le dis ce soir, sont très voilà. Pour parler plus poliment, voilà, incomplet, incohérent.
Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le féminisme
Par ailleurs, un animal, etc., et de la biologie, et donc voilà quoi.
Donc qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les discours féministes actuels? C'est qu'on nie la biologie dans un premier temps, mais qu'est-ce qui t'énerve le plus?
Est-ce que ça m'énerve? Oui, ça m'énerve parce que c'est, enfin, comment dire, moi j'ai une recherche dialectique, je recherche la vérité, je recherche pas... Ah, ça a gagné une tribu, un camp, etc. Donc oui, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on va dans des mauvaises, c'est des mauvais diagnostics de maladies réelles. Et ce qui m'énerve, en fait, ce qui pourrait m'énerver, c'est les faux procès, en fait, faits aux gens comme moi, aux gens qui ont une lecture biologique des questions, enfin des questions sociales et notamment genrées, quoi, enfin des rapports entre les sexes et des problèmes qu'il peut avoir dans ces rapports-là, enfin en gros des conflits sexuels qui existent qui peuvent exister en tendance entre les femmes. Et voilà, donc ce qui m'énerve, c'est de faire la biologie un ennemi, en fait, le côté c'est du naturalisme, c'est de l'essentialisme, c'est l'arme des conservateurs, des réacs, etc. Après mes opinions politiques sont relativement connues, voilà, pour le thème de ce soir, je suis très très proche des droits des prostituées, du strass, etc. Mais c'est pas du tout dans une vision conservatrice. Et pour aller plus loin, même si j'étais moi-même conservatrice, on s'en fout, quoi. Je mes travaux, les recherches dont je parle ne sont pas politiques. C'est juste pour comprendre les choses, comprendre notre espèce et point, quoi.
Et alors, du coup, au-delà du scientifique, tu as quand même des opinions, puisque tu dis, voilà, moi je me sens plus proche des gens qui sont là sur le plateau ce soir. Pourquoi est-ce que toi, tu voudrais peut-être défendre le droit à se prostituer?
Parce que je considère que je pense que la base de ma politique, ce que j'estime bien pour la société, c'est d'être en paix. En fait, de pas se taper de se taper au minimum dessus, voire pas du tout, et favoriser les libertés individuelles sont un bon outil pour favoriser pour construire cette paix, en fait. Et ce qui me dérange beaucoup dans les discours abolitionnistes, donc sur la prostitution, etc., c'est qu'il y a vraiment, voilà, il y a une négation de la liberté individuelle et ensuite, en étant empirique comme je suis et pragmatique, etc., ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, je pense que vous en avez parlé avant, mais
Les remarques autoritaires ne fonctionnent pas sur les gens et créent de la frustration,
c'est contre-productif, quoi. Genre c'est utopique, en fait. C'est tout le problème avec l'utopie, mais qu'elle soit féministe ou autre idéologie, en fait, c'est qu'on ne prend pas, on ne part pas du réel. On ne part pas du monde tel qu'il est, on part du monde tel qu'on voudrait qu'il soit, pardon. Et donc ça autorise toutes les horreurs possibles que l'histoire de l'utopie dans l'histoire regorge, quoi.
Et donc dans Comment l'amour empoisonne les femmes, justement, tu dénonces l'amour, qui est d'ailleurs des molécules et des processus biologiques qui sont de l'existant. Et toi, t'aimerais...
Je dénonce l'amour toxique, en fait. Là pour le coup, il reste une petite astuce dans le titre. C'est pas comment l'amour empoisonne les femmes. Genre l'amour quand il est très bien, je veux dire, l'amour quand il se passe bien est une force très très positive à la fois pour les individus et les collectivités, etc. Mais voilà, ce que je considère négatif, c'est l'amour, voilà, quand il devient toxique, quand il grève l'autonomie, etc. Et le fait est que c'est un phénomène qui ne touche pas les hommes, mais touche relativement plus les femmes, en fait. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à faire des sacrifices énormes pour une espèce d'artefact holistique nébuleux qu'on appelle l'amour, mais qui peut être très très polluant et toxique pour la vie, quoi.
Et c'est quoi les moyens, alors, de comme tu parles des moyens d'y remédier, en tout cas dans son livre, quels seraient les moyens qu'une femme peut engager pour arrêter le surinvestissement sentimental?
Se poser des questions, se poser déjà une espèce de question un peu très basique, c'est pourquoi est-ce que je m'inflige ça, en fait, si je suis malheureuse dans mon couple, pourquoi, voilà, je reste la première responsable de ce phénomène et je suis aussi la première à pouvoir trouver les clés pour m'en défaire, quoi. Donc ça, c'est une question un peu basique à se poser, pourquoi je continue à avoir mal, pourquoi je continue à à perdre mon temps, etc. quoi. Donc je pense que d'un point de vue individuel, voilà, c'est un peu la base. Et d'un point de vue collectif, c'est ce que je montre dans la fin de mon livre, c'est de favoriser en fait toutes les, en gros tous les progrès techniques, hygiéniques. Etc., qui ont permis en fait une meilleure autonomie des femmes et une meilleure diminuer les injustices sexuelles quoi.
En fait, t'es carrément féministe, hein.
Ah mais clairement oui, non mais oui, je suis féministe je suis féministe parce que c'est un outil du pacifisme en fait. Les sociétés les plus égalitaires au niveau sexuel sont aussi les plus paisibles et les plus avancées, etc. Mais le fait est que je ne suis pas du tout féministe. Voilà, je suis pas féministe utopiste, je suis pas féministe, je sais pas, marxiste, j'en sais rien. Enfin, tous les trucs qui, tous les trucs qui ne prennent pas en compte la biologie animale et humaine, et qui même considèrent que c'est dangereux, quoi.
Ok. T'as d'autres combats en ce moment ? Parce qu'à chaque fois, tu cibles un petit peu tes combats, tes revendications, tes machins, tes su.
Bah, en même temps, parler de combat, enfin, je suis pas une militante, hein.
Mais t'es assez, j'allais dire revendicatif sur tes réseaux sociaux. Quand t'as un truc en tête, on le sent, on le voit, ça transparaît à travers plein de publications.
J'ai des obsessions, quoi.
Ouais, t'as tes obsessions. C'est quoi ton obsession en ce moment?
Bah, en ce moment, c'est pas seulement en ce moment, c'est la liberté, la diversité. Voilà, là, par exemple. Il y a un MeToo des journalistes.
La Ligue du LOL.
Et j'aimerais qu'il ne soit pas encore accaparé par un seul discours féministe qui plaque en fait les rapports hommes-femmes sur les rapports de classe. Qui ouvre davantage de prise en compte de complexité, pas cette espèce de gros manichéisme du genre c'est des clubs d'hommes contre les pauvres femmes victimes qui ont aucune responsabilité dans le truc. C'est plus complexe que ça, quoi. Et qu'on si j'ai un combat les gens qu'on conspue pas les gens comme moi qui essayent d'avoir un discours un peu différent, quoi.
La pluralité des avis, voilà, Peggy.
Voilà, tout à fait. C'est un des autres de mes valeurs, c'est que je suis très très pluraliste en fait. Je considère que c'est du mélange et de la confrontation d'idées contraires, voire des fois qui semblent antagonistes, qu'on obtient la vérité.
Comment l'amour empoisonne les femmes, Peggy Sastre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone ce soir.
Merci à vous.
Et puis à bientôt.
Merci.
Et puis à bientôt. Au revoir, bonne soirée.
Bonne soirée.
Moi, j'aime bien ton petit sourire, Joseph. J'aime bien cette bonhomie. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà.
Merci, c'est gentil.
Voilà, c'est tout.
C'est vrai que je souris en écoutant Peggy. Ouais, non, c'est vrai, elle m'est sympathique. Elle m'est tout à fait sympathique.
Quentin, on va bientôt parler de sextoy.
Ouais. Ça m'a rappelé, juste avant qu'on parle des sextoys, ça m'a rappelé une théorie dont on parlait quand j'étais en prépa veto, qui disait qu'en fait, rien n'avait d'importance. De toute façon, tout était conditionné par les gènes qui ne cherchaient qu'une seule chose, c'était à se reproduire. Tout le reste, la conscience, l'amour, les religions, tout ça n'avait strictement aucune importance. Bah je ne sais pas ce qu'est devenue cette théorie,
une théorie philosophique. Hein. On est un bout de gène qui cherche à se perpétuer, à s'améliorer.
Voilà.
Oui. Voilà. Et c'est tout. Jusqu'à présent, scientifiquement, on n'a rien trouvé d'autre.
Hein. ça casse un peu l'ambiance. Hein.
Non, c'est bien, c'est hyper intéressant.
D'accord avec toi, je pense.
Après, ça m'embête un peu vu que Peggy Sastre est partie, donc du coup, je serais plutôt culturaliste comme elle le qualifierait. Maintenant, je me retrouve avec elle sur beaucoup de choses, notamment sur la préoccupation de scientificité et de parce que je pense que ce qui pose problème aussi dans certains discours, c'est que, c'est qu'à un moment donné, on évacue. C'est effectivement peut-être un camp du bien contre le mal et on reste sur un truc moral. Mais je crois que c'est pas qu'une question de est-ce que le féminisme, un courant féministe serait trop culturaliste ou trop biologisant, et l'essentialisme d'ailleurs, je pense que c'est pas qu'une question de biologie.
Je pense qu'après, moi, si je suis culturaliste, c'est plutôt parce que je pense qu'il y a une interprétation aussi de la nature et de la biologie à des fins de domination, et on le retrouve dans plein de discours qui visent à invalider la capacité des femmes ou de dire que voilà, la reproduction serait hétérosexuelle et que donc voilà, on calque des identités sociales, des faits sociaux avec un phénomène biologique comme la reproduction, par exemple, pour justifier tout un système culturel de domination en classant les gens en hommes et en femmes ou en voilà.
Mais bon, si je peux défendre Peggy, je pense que Peggy ne justifie pas, elle l'explique comment, oui, en règle générale, oui. Et elle propose justement des avancées avec la science pour dépasser l'état où on en est.
Après, c'est vrai qu'avec la science,
Exutero, formidable. Enfin, si tu peux lire ce truc sur comment on pourrait, le jour où on n'aura plus de conflits sexuels, c'est le jour où les femmes feront des bébés en dehors de leur corps. Donc ça va très loin dans le transhumanisme et du coup on est on s'éloigne un peu de la biologie actuelle.
Non, mais c'est intéressant aussi. Moi, je trouve qu'effectivement, la reproduction est un des marqueurs de genre les plus forts. En tout cas, ça revient tout le temps. mais c'est vrai qu'en tant que culturaliste, je dirais, pourquoi est-ce que 9 mois ou 18 mois dans la vie d'une femme, ça doit déterminer ensuite tout ce qui est toutes les discriminations, toutes les inégalités de traitement, parce qu'on va être classé en homme ou en femme juste par rapport à nos capacités reproductrices ou pas, quoi. Donc, je dis pas que c'est ce qu'elle dit, mais c'est pourquoi est-ce que pense que...
L'état, après, il y a une culture qui s'est créée autour de ça, c'est clair et net.
Bon, après, les modes de reproduction, il y en a plein, il n'y a pas que la fécondation.
Le clonage.
La mitose, ça reste un mode de...
C'est pas terrible. Enfin,
Peut-être.
C'est quoi la mitose? C'est raconter des mythos pour se serrer une meuf, c'est ça? Comment t'as fait tes enfants? Moi, c'est la mitose. Je lui ai dit que j'avais du pognon. J'ai eu des mômes, voilà. La mitose. Faudrait que j'essaye la mitose, ça a l'air bien. Benjamin, tu m'aideras à faire une petite mitose la semaine prochaine.
Quand tu veux, on sort ensemble et on va faire une soirée mitose.
Nickel. Alors, moi, je suis chef d'entreprise, une entreprise qui fait des montres.
D'accord.
Et j'habite en Suisse, voilà. Je suis de Genève, je suis en voyage d'affaires à Paris.
Moi, j'ai inventé la pétanque molle et mes parents, le bilboquet. Et donc, du coup, on a fait fortune là-dedans.
La pétanque molle et le bilboquet. Ouais. Tu sais, les deux trucs, c'est sexuel à mort, quoi.
Tu vois
à quel point. Dirty mind. Hein.
Dans un instant, on va savoir à quoi sert ce sextoy formidable ramené par Quentin. Je ne sais pas. Moi, je mise sur le collier.
Tu souffles dedans et ça fait de la musique.
Ah, ce serait vachement bien de faire de la musique avec un sextoy.
Moi,
je voulais savoir, Fleur, avec My Sweet Fantasy, est-ce que le fantasme de la prostitution est déjà venu?
En fait, il veut. Bon, comme on fait très attention à ce que les gens, du coup, ne se prostituent pas, du coup, non. Mais je pense qu'on peut... ce serait bizarre de le mettre en scène. On a un site où on peut réaliser le fantasme des gens, mais dans la limite qui ne soit pas celle du proxénétisme. Donc, on ne prostitue pas les gens qui sont des comédiens. Donc, non, on n'a pas de gens qui nous...
Est-ce que tu as déjà reçu ce genre de demande?
Non. Non, parce que les gens... en fait, les gens comprennent bien où est la limite. Et donc, ils nous demandent vraiment de la mise en scène, des shows, des spectacles, un peu de domination aussi, beaucoup. Le kidnapping, alors lui, cartonne très, très bien.
Gros carton sur le kidnapping.
Gros carton du kidnapping, gros ça fonctionne super bien, vraiment. Mais on pensait bien que c'était celui-là qui allait marcher. Mais non, du coup, en fait, les gens ne veulent pas jouer à ça. Enfin, pour l'instant, peut-être qu'à la longue, on aura ce fantasme. Mais c'est bizarre parce que, il va y avoir le faux échange de billets et alors.
De Monopoly, quoi.
De Monopoly, et qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. Mmh. Alors qu'ils pourraient aller voir une vraie escorte et vivre vraiment le fantasme. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, non, pour l'instant, on n'a pas la demande de la prostitution.
Quentin, c'est à toi, cul comme Quentin, tous les mois des sextoys de chez Lelo. Mais il y a d'autres choses derrière les fagots. Ça, on va voir, mais pas tout de suite. Il faut garder le meilleur pour la fin, je pense. Et je crois que c'est mon moment préféré dans l'émission, à chaque fois.
Je ne sais pas si c'était vraiment le meilleur pour la fin. Je pense que j'en ai deux petits là pour toi.
Non, ça, c'est un gros truc. Ça, c'est un plug.
Ça, c'est une grenade.
C'est une grenade anale.
On va commencer par celui-là, parce que je pense que celui-là est intrigué.
On est sur un moignon, là, Quentin.
C'est un plug, mais pas que.
Ah, d'accord. Oh.
C'est quoi? Tu peux boucher ton vent avec.
Benjamin, c'est un truc pour l'urètre.
Montre-le à la caméra, Benjamin.
Attends, vas-y, donne, Quentin.
Vas-y, ouvre-le. Hop.
Ah là là, oh là là, oh là là.
Non, ça c'est le charge, c'est la charge, on se calme.
Non, ça veut dire que ça c'est...
Si.
Faut un bon lube là, quand même.
Je répète, ce n'est pas la charge.
Ah, si, je sais, c'est une enceinte. Tu fais enceinte avec
oui,
ton
cul. Oui, ça vibre sur les basses. Ça fait de la musique. Ah, non, c'est un plug musical.
Non.
C'est un micro.
Non plus.
C'est un presse-citron, un presse-agrume.
Ça tourne. Ça divise.
Le mec, il a ça chez lui quand t'as dans sa. À votre avis.
Je presse mes oranges dessus. Hop,
Thierry
hop,
Anaïs, c'est quoi la particularité de ce plug? Alors, fort joli, hein, au demeurant.
Il va décoller.
Je pense que ça doit un peu vibrer, quoi, non?
Il monte et il descend. Il est
vibre absolument.
Il est à percussion.
Non, mais ce fil, il sert à quoi ce fil quand même? C'est chelou, un fil qui sort d'un plug quand même.
Un peu, ouais.
Un plug électrique, on nous dit dans la room.
C'est pour. Ouais, on peut.
Est-ce que ça s'électrifie?
Anaïs.
C'est de l'électrostimulation. Ouais.
J'aime bien le. Ah ouais, ouais.
Ah ouais. J'ai pas du tout envie.
C'est-à-dire, donc tu le branches à un secteur, c'est ça?
Voilà, en fait, il y a un appareil supplémentaire à acheter et en fait. Top là.
T'as essayé ou pas?
J'ai pas essayé celui-là.
Tu achètes ça d'un côté, mais il faut que tu achètes un autre morceau.
Ouais, en fait,
l'acheter tout en bloc.
Il y a une partie électrique. Le bloc électrique est commun à tous les sextoys de cette marque-là.
Tu crois que c'est sur la chaise électrique aux States? Il y a le petit plug, tu t'assois sur le petit plug et tout. Ça serait stylé quand même, non?
Il faudrait qu'il soit mouillé.
Ouais, bah voilà.
Donc en fait, ils font toute une gamme de toys d'électrostimulation.
Qui fait ça?
Mistim.
D'accord, fais voir, montre-moi ça. Mais c'est des petites décharges.
Oui, c'est pas du 5000 volts non plus.
Hein. Tu
oui, t'as pas les cheveux qui crament, quoi. Mais non, mais c'est pour savoir si, bon, ça chatouille un petit peu ou faut vraiment être initié pour l'utiliser.
C'est un instrument de torture.
C'est le mec qui capte France 4, énergie 12. Hanouna.
En fait, t'as un petit régulateur de d'intensité.
Après, sur le truc, t'as une télécommande, voilà. D'accord.
C'est donc, sympa. Donc... Ça va du ça chatouille à ça fait mal.
Ah, donc tu vois, d'accord. Donc, c'est un petit peu. En gros, voilà, c'est un petit peu pour tout le monde. À partir du moment où on est. Bon, déjà, il y a la taille quand même.
Il faut déjà que ça rentre.
Il faut déjà encaisser. Hein. Voilà.
Mais je sais ça qu'en, rentre. En BDSM, il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser l'électrostimulation, justement. Ouais, ouais.
Dans l'urètre non, aussi, on a vu. Pas mal dans l'urètre.
Oui, mais Steam fait de tout. Oui, ils font des œufs vibrants électriques, ils font des rabbits électriques, enfin électriques, électrostimulation, des tiges urétrales électrostimulées, ben, tout quoi.
C'est sympa.
Et ils ont même des piercings pour la langue. Qui envoie les décharges.
Donc pour fellation, par exemple. Eh, hey, c'est pas mal ça. Alors il y a Nephilim qui nous dit c'est un taser anal.
un taser anal.
C'est
ça.
C'est
la prochaine
Apple,
arme de la police.
Il y a Valdor qui nous dit c'est Apple le truc, pour que ça marche, il faut un accessoire supplémentaire.
C'est vrai, c'est ça, ouais.
C'est vrai. C'est vrai. Ça. Vendu par EDF. Qui a déjà testé dans la room? Bah, je sais pas. Qui a déjà testé les sextoys électro-stimulants?
Ah, j'ai découvert ce week-end.
Raconte. Tu peux pas balancer les choses comme ça. Ah non, t'as découvert ça.
Il a pas dit tester, il a dit découvert.
Mais tu sais, moi, avec Quentin, à chaque fois, je m'imagine plein de trucs. Hein. Je m'imagine plein de trucs.
Donc, j'ai découvert, je me suis dit, putain, c'est génial.
T'as testé, toi, Thierry?
Analement, non, j'ai pas testé, mais j'avais testé avec un mec le.
La sonde
non, pas la sonde, mais le truc électrique sur la bite. Ah. J'ai vu, c'est sur la
c'est
bite.
C'est quoi, un cockring? Une sorte.
Ouais, c'est un.
Qui prenait les couilles un peu.
Les couilles, non. Hein.
Ouais, c'est plus autour des couilles. Ouais. Ouais.
Ah oui, la cage. La cage.
Non, c'était pas la cage, c'était des trucs, ça envoyait des petites décharges et tout ça.
Comment c'est du coup?
J'aurais plutôt. Enfin, je pense que ce qui était intéressant, c'était que c'est plus par rapport à l'érection en fait. Et comment ça te fait vibrer la bite un peu ou comment ça. Mais sinon, comme j'ai pas vraiment essayé, je pense que ça pas non plus. Mais je pense que oui, parce que lui, il avait érotisé tout ce truc-là, et du coup, mais j'avais essayé comme ça, mais c'était pas non plus.
Dingue.
Mais je suis pas très très sex toys à la base.
Mais dans
en
le
fait,
cul, ça doit être assez.
De quoi?
C'est interne, quoi. Enfin,
c'est dedans, quoi. C'est dedans.
Ouais, c'est, bah, c'est au niveau anal, un god classique, c'est pas. Mais même, je trouve que c'est un peu trop petit, moi, je trouve. Hein. Toi qui dis que c'est gros.
Oui, parce que dès qu'on sort un plug, les gens vont dire. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très gros non plus. Mais voilà, c'est chacun ses appréciations. Joseph, toi, tu dois trouver ça très très gros dans ton cul.
Ouais, je trouve ça absolument énorme.
Voilà, c'est absolument énorme.
Ouais, je prévois une bonne dose de lube.
Il en faut, ouais. Pour tous les goûts. Hein.
De toute façon, il faut toujours une bonne dose de lube. Hein,
bah, évidemment.
Dans le cul.
D'accord. Ok.
Mais pas que.
On me demande d'essayer dans la room. Alors, non. Non, je ne vais pas essayer tout de suite.
Non, je suis désolée, je ne travaille pas ce soir.
On fera ça dans l'intimité. Quentin, plus classique, j'imagine, parce
oui,
que là, on est
classique.
Sur du Lélo. Hein.
Alors, en fait, au salon, salon érotique, de l'érotisme.
De Rennes, où tu étais ce week-end.
Voilà. Ouais. Le toy le plus demandé, c'est vraiment pas ce à quoi je pensais.
C'était... T'aurais dit quoi, toi?
Moi, j'aurais dit les Womanizer, oui. Les Sora, ouais, les Satisfyer, ouais. Etc. Ouais. Eh bien, dans tout le salon, il s'en est vendu 3.
Ouais.
Et ils voulaient tous des œufs vibrants.
Quoi?
Ah. Ouais.
Parce que c'est la Saint-Valentin. Non, mais c'est le week-end juste avant la Saint-Valentin.
C'est pour ça que j'ai pris celui de Lélo. Je sais plus si je vous l'ai déjà
pour acheter des œufs.
Parce que c'est le seul truc
si
un peu
cool.
Les œufs, c'est pour coup. C'est pour Pâques.
Oui, mais c'est bientôt aussi.
Oui, très juste. Très, très juste. Voilà.
Voilà, donc
c'est des œufs.
Ouais. Voilà, j'ai pris celui de Lélo, forcément, pour pouvoir un peu parler des œufs vibrants. Visiblement, c'est vraiment le truc qui fait kiffer les gens pour la Saint-Valentin.
Ah, il est waterproof, celui-là, ouais. C'est cool.
Ouais, ouais, tout est, de toute façon, chez Lélo, tout est waterproof, tout est rechargeable.
Et c'est combien la distance?
Et...
Genre, je suis avec ma femme au resto, on peut utiliser à distance?
Oui, théoriquement, c'est 33 mètres.
Oui.
À moins d'avoir une très, très grande table, mais sinon, hein? Sinon c'est jouable.
Tu peux le faire dans toute la maison, quoi.
C'est dans la réalité, c'est plutôt 10 mètres. Et si, dès que tu as du béton, genre si c'est à l'étage, etc.
Tu peux le faire dans le métro.
Ça va être 3-4 mètres.
D'accord, ok.
Mais ça l'idée, c'est quoi? C'est qu'avec, tu as une télécommande et que du coup, tu peux faire vibrer, machin.
À ouais, distance, ouais, okay. D'accord. Ouais. Ça marche bien, ça c'est rigolo. Voilà,
c'est vraiment le truc basique, en fait, mais que tout le monde a envie d'avoir en ce moment.
C'est mignon pour la Saint-Valentin,
les couples, ouais, pouf.
Bah oui.
C'est combien ça, Quentin?
139 euros.
Ah, quand même?
Ouais.
Ah, quand même. Mais bon, c'est du Lélo. C'est waterproof, c'est très joli, une belle couleur, belle texture,
c'est tout doux.
C'est tout doux, effectivement.
Donc en fait, c'est un cadeau qu'on fait à sa meuf pour se faire plaisir à soi, c'est ça?
Ou à son mec, c'est pour dire...
Ça, je crois.
Non mais je veux dire...
C'est soit ça, soit tu payes 10 000 euros parce que tu me baisses plus.
Non, non, mais c'est les filles qui cherchent, qui cherchent absolument des œufs pour refiler la télécommande à leur copine ou à leur mec, d'ailleurs, pas que leur mec.
Les œufs vibrants, c'est vraiment trop bien, surtout en public. Bah ouais, c'est ce que je disais, c'est Izzy qui dit ça. Mais ouais, c'est très rigolo. C'est un bon jeu de couple, ou même toute seule. Hein, on peut jouer avec ça. Parce que c'est exclusivement pour les femmes, hein, celui-ci.
Oui, ah, oui.
Il y a pas de butée comme sur celui-ci. Non, là, d'accord. Ça part, tu le retrouves plus. Et puis voilà, bonjour quoi. Bonjour, bonjour. Bon voyage. Allez, salut. Vers l'infini et l'au-delà.
Allez, un autre qui m'a fait bien rigoler, parce que
le Liebeu.
Liebe.
Donc c'est pas allemand.
Non, c'est d'accord. Espagnol.
Ok, très bien.
On l'ouvre ou pas?
Oui, vas-y, tu peux l'ouvrir.
Vas-y.
C'est un des
je
premiers...
déteins sur toi. Hein. Qu'est-ce que tu crois que tout est allemand maintenant?
Bah Liebe, je dis ça. Voilà. Hey, LV2, hein, monsieur.
Oh mon Dieu.
Je crois que c'était
une
étape.
Oh là là.
Et donc du coup, c'est le fait qu'il soit, on peut le tordre, le mettre dans la forme qu'on veut. En fait, on peut limite faire un U avec. On peut le.
Pour faire un double.
Alors peut-être pas pour faire un double, mais c'est vrai qu'il y en a certains ou certaines plutôt qui nous disent « Ah, il est un peu trop incurvé, celui-là il est trop droit. » Bah finalement, tu peux choisir ton inclinaison. Ouais, tu peux choisir ton inclinaison pour te goder avec.
C'est comme au ski, t'as les pistes rouges, les pistes noires.
Anso, on va dire à Izzy qui disait que c'est trop bien les œufs en public, on va lui offrir le sextoy Lélo.
Bah, voilà.
C'est Izzy 972, les œufs vibrants, c'est trop rigolo, bah voilà, tu pourras t'amuser avec ça. On t'envoie ça ces prochains jours, n'oublie pas d'envoyer tes coordonnées à Anso dans la room. Alors celui-là, on peut le tourner, ça va, t'y arrives, Flore, c'est pas trop difficile. Donc Liebe, c'est la marque,
Liebe,
hein,
c'est une marque espagnole.
D'accord, ok. Oh, mais il est très joli aussi, très joli, on est sur une belle texture également.
Oui, c'est du silicone. Bon, après, la boîte est très plastique, hein. Bon, mais le toit est sympa. Et voilà, il se plie.
C'est la mémoire de forme.
Ah, exactement.
D'accord, très bien.
Pour ceux ou celles qui trouvaient ça trop courbé ou trop droit, ils choisissent ce qu'ils veulent faire.
Comme ton oreiller, effectivement. Il est waterproof aussi celui-là apparemment, non?
Attends, j'ai pas tout suivi sur celui-là. Alors par contre, il est juste pas, il est à pile, mais effectivement oui, il est waterproof.
D'accord, ok. Bah c'est très mignon, c'est très mignon. Il n'y a pas les piles, mais
ils ont pas mis les piles.
Oh là là, mais ça c'est vraiment des piles vendues séparément, hein, comme d'habitude.
C'est vrai que c'est drôle,
Bah ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. Et puis ça change, enfin c'est un peu innovant ça.
La texture est agréable.
La texture est agréable, ouais. On a envie.
Ouais, mais t'es pas très sextoy, mais tu peux toucher.
Oui, c'est vrai que la texture est agréable.
C'est
vrai.
Et c'est un professionnel qui parle.
Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Alors j'ai cru qu'il y avait déjà une tache, je me dis merde.
Non.
Putain, ça serait con.
Très
hein. On est rapide, mais quand même. Hein.
Non, mais c'est pas pour vous, c'est surtout pour lui, ça voudrait dire qu'il est pas très bon, quoi. C'est surtout ça. Ouais, deux piles. Voilà.
Eh ben, je veux bien tester celui-là, c'est F-Coquine qui dit ça, bon, on te l'envoie également aussi dans la room, Anso, tes coordonnées. Les gens ils comprennent pas, parce que j'offre tout le temps des trucs dans l'émission, ils demandent mais pourquoi pas moi, bah fallait demander. Bah, c'est tout simple, les gens demandent, on le donne, c'est tout. Quentin, encore un, et dans un instant, on sera sur le Picobong.
Ah, tu m'as demandé de le faire en dernier, je te le fais en dernier.
Ah, ben oui, évidemment, mais je suis trop pressé celui-là.
Et celui-là aussi, tu sais quoi, je sens bien en fait, la texture, j'ai touché, c'est très agréable.
Ouais, oui, bah de toute façon. Bon, c'est forcément, c'est.
Bon, moi, j'ai pas de meuf à qui l'offrir, mais le jour où j'en ai une, pas de soucis.
Oh là, Quentin.
C'est après l'acte 13 des Gilets jaunes, c'est l'acte 2 du Chatus.
Attends, Flore.
Bon, je le réserve. On le fait pas gagner à la room. Le Chatus, il est pour moi.
Attention.
Je l'ai mérité, je l'ai baptisé.
Oh mon Dieu.
Oh my God. Attends.
C'est une bouche. Vagin.
J'allais dire même c'est l'acte 2 du Chatus, c'est l'acte 2 du Monkey Spanker.
Mon Dieu, c'est une chatte d'alien. Non, mais on dirait vraiment ça, hein.
On dirait un enfant à Noël. Hein. Vous connaissez le flashlight ?
Non.
Oui. Et bah, c'est un sectoy qui simule un vagin en silicone. On met son sac dedans, c'est trop cool. Quentin a sorti ça, mais ça ressemblait entre un sexe de femme et un anus. Donc on a appelé ça le chatus. Et en même temps, c'était dans une canette de bière. Donc ça nous a fait tout le mois complet. Et là, il nous sort le nouveau chatus. Alors attendez, je suis impatient. Joseph, là,
chatus, ta.
Oh oui.
Oh là là, mon Dieu.
C'est pour ça, c'est entre le mot qui.
Ouais, on dirait déjà la couleur, là, franchement.
Alors. Et touche la texture du truc.
Oh bordel.
Ah mais attends, mais c'est un super Monkey Spanker, ça.
C'est ça, c'est l'acte 2.
C'est comme les Pokémon.
Sex Simulator, oui, c'est ça, c'est une bouche. C'est une bouche.
Non, mais attends, moi je vais en prendre parce que ça va me faire du boulot en moins.
Ah bah voilà, exactement.
Tiens, regarde.
Ferme les yeux.
Explique comment l'utiliser.
Ça brille dans le noir, on nous demande dans la roue.
Bah, il y en a qui brillent dans le noir, il y en a qui sont transparents.
C'est impressionnant ce truc, mais sérieux.
Le mec
se branle de forme, hein.
Donc là, il y a sa meuf qui regarde The Voice et lui se branle dans le canapé. Deuxième image.
D'accord, c'est drôle, c'est bien, c'est vachement bien.
Avec devant son petit porno, c'est trop mignon.
C'est bon.
Ah ouais, ça. Il baise et il s'entraîne à baiser comme ça, oui.
Contre la table.
Contre la table. Ouais. Moi j'aime bien, les illustrations sont fabuleuses.
Ouais, elles sont vraiment très très bien, ouais.
Franchement.
Carrément, non, carrément.
Combien, je crois qu'on est à 60 euros, un truc comme ça.
D'accord. Ça va. Ouais. Ça va,
donc
franchement.
La pression est réglable, c'est ça qui est hyper intéressant.
Ah bah oui, là.
D'accord, avec ça.
Ça vibre,
non, mais... il vibre pas celui-là, mais tu peux. Je crois que t'appuies dessus et puis il devient plus ou moins.
Comme les Reebok
rigides.
Comme les pumps.
Comme les pumps Reebok à l'époque, quoi. On appuie sur la semelle, on gonfle.
Qu'est-ce que j'ai pu rêver de ces pompes.
Je suis pas convaincu par cette histoire.
Oui, enfin bon, après.
Tu veux bien aller le tester 5 minutes, puis tu.
Ah bon, on va donner ça à Joseph, parce que les gens disent que c'est pour toi, Joseph.
Hein. C'est pour moi, je le prends, je le teste la semaine prochaine. Ah bah non, il n'y a pas d'émission la semaine prochaine.
On l'appelle l'Alienator, c'est ça?
Mais.
Comment on peut l'appeler?
Oui.
Il faut un petit nom sympa.
Bah, il faut que les gens.
Ah bah.
Comment on appelle ça dans la room, les gens? Il y a Chatus Alien.
Alors, pour ceux qui aiment bien l'allemand, ça s'appelle un Verspanken.
Verspanken!
Verspanken.
Moi, ça me fait penser au géant Hulk, mais.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui,
c'est que t'es Hulk.
Le trou de balle d'Hulk, ouais. Hein, c'est un peu ça, quand Bruce Banner s'énerve.
Ben voilà, pour les nostalgiques de Hulk.
Ouais. Pour ceux qui ont envie d'enculer Hulk, voilà. Ils existent, faut croire qu'ils existent.
On appelle le touche-à-ton Hulk. On dirait un bracelet, ouais.
Moi, je trouve que le toucher, bon, à mon avis, il faut mettre du gel.
Ouais. Oui.
Un lubrifiant, un truc efficace, mais ça peut être sympa. Hein.
Alors les gens ne sont pas convaincus dans la room, hein, malheureusement.
Non, la texture me paraît quand même chaud. Par rapport à un flashlight, tu as vraiment une belle texture. Même le Monkey Spanker.
Le Monkey Spanker.
Tu avais une bonne texture. Là,
oui, ouais.
Je pense pas que non.
Ouais. C'est marrant, ils ont pris les designs de la Maïf. La Maïf, il n'y a que des bonhommes comme ça qui font. Bah, tu sais, voilà, bah, j'étais enseignant. Et voilà,
Tout à fait.
Alors, et là, paf, c'est tombé sur ma voiture.
C'est ça, oh là là, et ben, j'ai été remboursé en 8 sur 11.
Alors, surtout, ne va surtout pas dans l'école de tes enfants, Benjamin, parce que tu vas voir que. Y a oui. Pas que la Maïf qui dessine les bonhommes comme ça. ni ceux qui ont fait le Chatus Alienus.
Et ben, le Chatus Alienus. Voilà.
Ça, alors, c'est le nom latin, évidemment.
C'est quoi la déclinaison du coup?
Ah bah chata aliena, chatum alienum. Attends, t'es con quoi.
Alors on va pas l'offrir parce que les gens réclament dans la roue maintenant, c'est pour Joseph.
Voilà, bon bah il est pour moi.
Ça fera un autre test.
Ah bah c'est ça, tout à fait. Yes. Je vais devenir testeur de chat virtuel.
D'accord.
Voilà, ça va être mon métier maintenant.
Voilà, exactement. C'est entre le crapaud, l'alien et Hulk, c'est, voilà. C'est hybride.
Et il faut que tu me le donnes parce que s'il y a un rapport d'argent, tu seras mon proxo. Fais attention.
Joseph,
je fais ça tout gratuitement.
Non, c'est ce qu'on dit, c'est que le proxénétisme, c'est même sans
argent. Même sans échange.
Il fallait pas
tout aide à la prostitution.
Oh là 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 là, c'est complètement dingue.
Joseph, c'est pour toi.
Ok.
Oui, Anaïs.
Oui, le truc classique du proxénétisme, c'est de donner un renseignement à une travailleuse du sexe pour qu'elle exerce. C'est du proxénétisme. C'est
ah, d'accord. Donc, si vous appelez le 12 ou le, je sais plus comment c'est, 118, non. 218, tu demandes un renseignement, tu fais ah, proxénète.
Oui, alors si c'est l'adresse de son client, oui, proxénète.
Ah, ben bah, voilà, exactement. Bah, ouais. Du recel, voilà, exactement. Mais essayez, je sais à quoi ça ressemble. Est-ce que vous avez connu le dessin animé Ulysse 31?
Oui.
Oui.
Mets-le horizontalement. C'est son vaisseau spatial. Non, avec, non, avec comme ça, ça. Comme ça. Tu sais, en forme d'œil, là, avec les deux trucs sur le côté, c'est le vaisseau. Ah, c'est aussi une grenouille.
C'est Kermit c'est la
aussi,
grenouille.
C'est aussi une grenouille.
Voyons, okay, tu vas pas te mettre sur la bite.
Ah, c'est incroyable. Bah non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai.
Joseph, il est pour toi le Verspunken. Le
Verspunken.
Verspunken Bosley.
Moi, je veux un compte rendu à la prochaine émission, s'il vous plaît.
Je le ferai, je le ferai.
On le fera, il y aura un petit. Là, on en parle jusqu'à la fin de la saison. Là, on a beaucoup d'objets, Quentin. Ouais. Et enfin,
qu'est-ce que c'est que ça, Quentin?
Et le dernier,
alors après, on n'aurait pas dû le faire en dernier parce que là.
Oui, passer après
le Verspunken.
Ça va paraître anecdotique, ouais.
C'est un collier.
D'accord. C'est juste un collier.
C'est juste un collier.
Voilà. Juste un collier.
Comment on ouvre ce truc?
Alors c'est juste un collier, mais par contre, alors ce qui est sympa, voilà, c'est chez Picobong, le thème Picobong, c'est le surf et la mer. Donc en fait, c'est censé reprendre. Alors c'est un peu chelou de dire
c'est
ça.
C'est à la plage.
Ouais, mais c'est censé reprendre les petits trucs.
Ça se
confond
pas du tout.
Ben non.
Ouais, ça, enfin voilà, tu gonfles pour
de vrai par contre.
C'est tout.
Oui, c'était juste un petit truc sympa.
Mais, non, mais tu peux l'ouvrir.
Comment on ouvre? C'est un collier.
Mais en fait, ça sert à rien ton truc.
Si elle met autour du cou.
C'est là. Ouais, c'est un truc pour un peu ridicule. C'est un BDSM, je te ridiculise, je mets
attends,
ça.
On passe de l'alienator à
c'est une laisse. C'est une laisse, pas très jolie quoi.
Je pensais que ça vibrait moi.
Moi, je pense que c'est mieux si tu le prends pour ton chien.
Oui, je pense aussi.
Franchement, ouais. Franchement, c'est stylé.
Ouais,
pour certains, ça fait un bracelet, mais.
Oui,
ouais. C'est une lacet.
Non, c'est joli.
Ouais, ça peut être joli. Ouais. Ça dépend du truc.
Matelassé, c'est voilà. Bon. Voilà. Non, mais c'était juste un petit truc sympa, en fait. Moi, j'aime bien. Je trouve ça bien. Ouais. Ça me rappelle.
Il y a quelqu'un sur la room qui le veut?
Ah ah.
Joseph, tu m'éclates.
Bah, en fait, le truc, c'est que s'il tire.
Voilà. Ouais, c'est encore une fois, c'est Picobong.
Ah, donc c'est pour les c'est pour les gentils, ça. D'accord.
Puis c'est un truc qui ne se gonfle même
détendu.
Pas. Détendu. Okay. Alors qu'il y a une valve pour le gonfler.
Ah bah oui, la grosse
arnaque. Ça flotte.
Pour rappeler le thème du surf et de la mer.
Ah, c'est du packaging.
Comment il s'appelle? On s'en fout. Alors d'accord.
Donc personne veut du on s'en fout.
Personne.
Du
choker. Qui veut le on s'en fout pour
c'est de l'allemand, c'est Untergleich die Führer. C'est un très beau truc.
Ouais, ça n'a pas de nom.
Speak non, ça n'a pas de nom. C'est choc. Ah non, c'est, oui, c'est Speak No Evil.
Speak No Evil.
Choker.
Putain, sérieux.
Eh ben voilà, les gens ont demandé dans la room. Il y a Gourmand24. J'aimerais bien la voir, s'il te plaît, Benjamin. Je sais pas si c'est le premier à le réclamer. Anso, tu vérifieras. Mais si c'est. Non, c'est pas le premier. Eh ben, donne au premier qui a demandé. Voilà.
Il y a beaucoup de gens dans la room.
Il y a beaucoup de commentaires. Hein. Les gens raffolent. Regarde tout ça. De, c'est... C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ben merci Quentin.
Voilà.
Et ben merci Quentin, c'était bien le Chatus alienus, bah là dans le top 3 hein, des découvertes de cette année.
En fait, j'ai remarqué que le top 3 se compose exclusivement de masturbateurs en gros.
Bah ouais, mais c'est ceux qui sont les plus
c'est
originaux.
C'est quand même les plus drôles.
Tu as préféré quoi toi, Thierry? Le plug électrifié, le Chatus alienus.
Oui, j'irai plus pour le plug électrifié, je pense.
Ah. D'accord.
Mais je sais pas.
On l'a donné le oui, plug ou pas?
Oui.
Je crois qu'il est
ah non, il
n'a
pas.
Non. Il n'est pas parti le plug. Qui non. veut le plug dans la room, Anso? Bah tu vérifies. Hein, le premier qui demande le plug électrifié. Et il manque la base. Donc il faudra...
Oui, bah là, malheureusement, et c'est j'ai pas.
Mais en fait,
pas...
ça doit être standard avec. Ah, quoique.
Bah non, parce qu'il faut le variateur.
Ouais,
hein.
Ouais. Ouais c'est standard.
Mettez pas n'importe quoi, vous allez vous. Non, fait, déconnez
pas. N'utilisez
pas
le variateur du train Lego, non. Ça marche pas.
Non, oui, faites attention. Et puis de toute façon, personne ne va aller dans un magasin pour dire écoutez, alors j'ai un plug électrique. J'ai besoin d'un.
Tu l'as acheté dans Transfo.
C'est ça, exactement. J'ai besoin d'un Transfo, regardez.
D'accord, très bien. Et ben, merci Quentin. Franchement, merci, ça fait plaisir. Tu reviens le mois prochain,
eh
tu
oui.
reviens en mars.
Ah ouais.
Comment tu fais maintenant pour trouver des trucs un peu, pas sordides, mais particuliers? Parce qu'il y a eu le Chatus, il y a eu le Monkey Spanker, il y a le, on va l'appeler comment? L'Alinator, Joseph?
Chatus alienus.
Chatus alienus, ouais.
Non, ouais, je sais pas, comme tu veux. Ou la grenouille, on peut l'appeler la grenouille.
C'est Kermitus.
Ouais.
Kermitus.
Ouais, pourquoi pas. Si tu tiens à ce qu'il y a un us à la fin.
Non, pas spécialement, mais c'est toi qui étais parti là-dessus, donc.
C'est vrai.
Donc voilà. Bon, nous, on va vous faire des gros bisous. On va vous dire pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après, parce que c'est les vacances d'hiver et qu'on part pas, mais en même temps, on fait une pause quand même. Et donc, on revient le 4 mars prochain. Quentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Thierry, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Anaïs aussi, merci. Dustras. C'est quoi, c'est l'acronyme?
En fait, non, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, mais STRAS c'est plus joli.
D'accord. Mais c'est vrai que c'est très
ça
joli.
Ça fait syndicat, TRA.
Voilà, travailleur. Ouais.
Mmh. Non, c'est bien. Mmh.
C'est... Non, mais on est pas mal. Hein.
Franchement, ouais.
Ouais.
On gérerait bien. STRAS.fre ou .com?
STRAS-syndicat.org.
Un événement prochainement prévu? Thierry?
On a pas mal de choses. En fait.
Oui, il y a le 8 mars qui va approcher. Sinon,
le 16 avril.
Puis il y a le Snap Tour.
Voilà, enfin, un festival Snap.
Festival Snap, super.
Ouais. Ouais, mais on va le faire tourner sur toute la France.
Oh, trop bien.
Ouais.
D'accord. Nouveauté de cette année.
Oui. Ça a été mis en place par une membre du STRAS, Marianne Chargois. Et ça a un grand succès, donc on le fait tourner. Elle le fait tourner sur la France.
Deuxième édition, hein?
C'est la première, toute première édition.
C'est la toute première édition?
Toute première édition.
En fait, il y a déjà eu un festival Snap.
C'est ça, hein?
Snap, qui mais a eu lieu, mais en septembre-octobre.
Ouais, c'est ça.
Mais donc, voilà, ils font tourner le truc.
On fait tourner, voilà.
Parle bien devant ton micro, Flore.
Donc, c'est bien la même édition, mais ils font tourner.
On l'a fait tourner.
D'accord, ok, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Merci Anaïs, merci Thierry, merci Quentin, merci Joe, je t'embrasse très fort, tu nous raconteras comment se sont passées tes masturbations.
Tout à fait.
Je veux le compte rendu.
Voilà, bah, tu l'auras, voilà. Franchement, tu l'auras, aucun souci.
Et il faut qu'on te fasse une chronique.
Peut-être,
franchement, faut faire
peut-être,
un truc,
donnez-moi, franchement, apportez-moi des masturbateurs, et le gros branleur que je suis, vous
c'est
les
ça,
testera
ouais.
tous, il n'y a aucun problème.
Le branleur.
Le branleur, voilà, c'est ça. C'est le métier de rêve, hein.
Non, c'est câlineur de panda.
Câlineur de panda,
bah non,
évidemment.
Moi, le jour où je pourrais dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis un gros branleur. Alors franchement, ce jour-là sera béni des dieux.
J'avais jamais pensé, mais moi, je peux déjà le dire.
Ouais, trop bien.
Ouais.
Pas faux.
Gros bisous, Flore.
Bon, bisous, Benjamin.
À bientôt, tu vas me manquer.
Bonne
mais bon,
vacances.
C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est pour mieux
bisous
se retrouver.
La
bisous, la room. Vous avez été formidables ce soir, encore une fois. Beaucoup de participation. Ils ont beaucoup aimé les thèmes qu'on a abordés ce soir. Ils étaient très impliqués. Et très drôle aussi. Ils ont eu plein de cadeaux et c'est le principal. On est content pour eux. Anso, bonsoir.
Voilà, bonsoir Anso.
Voilà, ça va, vous avez été gentil avec elle, donc on va ravaler notre violence avec Joseph.
D'accord.
Et voilà, c'est tout, tout simplement. Voilà.
Ça va.
Voilà. C'est pour toi le mot de la fin, Joseph.
Non. Voilà, c'était le mot de la fin, c'est non.
Allez, bisous, voilà. Portez-vous bien. Ciao.
Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Apporte-moi le. L'alienus.
L'alienus, putain.
Il faut absolument du lubrifiant.
Ah, il en faut beaucoup. Faut prévoir un petit bidon. Ça marche. Ah non, là, ouais, attention. Hein. Oh, c'est impressionnant.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, allez, je vais tester ça.
Baisse ton pantalon, je t'apprends.